Vous êtes sur RTL.
Kelvy, bonjour Yves.
C'est parti, merci infiniment Julien, bonne journée à vous et à l'équipe de nos petits matins. Le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy est ce matin l'invité d'RTL. Il répondra aux questions de Benjamin Sportouche dès 7h40 et croyez-moi, elles sont nombreuses. Où en sommes-nous exactement? Le déconfinement se passe-t-il correctement? Faudra-t-il vacciner les ados et pourquoi pas les enfants? Et le port du masque reste-t-il une priorité? Si oui, jusqu'à quand? À l'orée de nos vacances d'été. Et puisque l'on parle de déconfinement, évoquons nos restaurants. Le grand chef Yannick Aleno, triplement étoilé au pavillon Le Doyen, veut tout changer dans ce qu'on appelle les grands restaurants. L'occasion de faire le point, alors que dès demain, mercredi, nos restaurateurs pourront nous accueillir dans des salles remplies à moitié. Enfin, sachez qu'à partir de 9h, le comédien Benjamin Laverne viendra nous présenter le film Le Discours, qui sort demain au cinéma. Nous l'accueillerons avec Stéphane Boutsock. Et que Monique Younes nous emmènera, elle, découvrir la formidable exposition consacrée au père d'Astérix. Elle est intitulée Uderzo comme une potion magique. Et tout cela se passe au musée Mayol à Paris. Nous sommes le mardi 8 juin 2021. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
À la une, ce nouvel espoir dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer.
Avec la mise en vente sur le marché américain d'un médicament qui pourrait arriver chez nous en France dans quelques mois. On vous explique tout dans un instant. Le tueur de la gare de Perpignan, de retour aux assises, Jacques Ranson, jugé cette fois pour un meurtre vieux de plus de 30 ans. À suivre également la défense hasardeuse de Jean-Luc Mélenchon, victime selon lui d'un coup monté. Le foot, les Bleus, deuxième et dernier match de préparation avant l'Euro ce soir face à la Bulgarie. Et puis il résiste encore et toujours à l'envahisseur, vous le savez, et même au Covid. Le parc Astérix rouvrira ses portes demain. RTL s'est invité dans les tranchées du village gaulois.
La politique avec vous, Olivier Boss.
Et gros plan ce matin sur les régionales en Ile-de-France. La campagne s'anime et s'envenime, mais les sondages ne bougent pas.
Tous les détails dès la fin du journal.
RTL Matin.
C'est une maladie qui touche en France plus d'un million de personnes. 200 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Pourtant, il n'existe quasiment aucun traitement contre Alzheimer. Et la recherche stagne depuis près de 20 ans. C'est pourquoi ce nouveau médicament américain, les États-Unis viennent d'autoriser sa mise sur le marché, malgré toutes les réserves qui l'entourent, est porteur d'un véritable espoir. Lionel Gendron.
Oui, car la promesse du médicament est de s'attaquer aux causes de la maladie. Pour certains scientifiques, c'est tout simplement la meilleure chance de battre un jour la maladie d'Alzheimer. Il faut donc lui donner sa chance. Son principe, viser et attaquer la protéine qui détruit les tissus cérébraux. Le médicament est destiné aux personnes les plus légèrement atteintes. Une injection toutes les 4 semaines pendant un an pour un coût total avoisinant 45 000 euros. Depuis des années, la recherche sur Alzheimer bloque et c'est pour ça que ce médicament suscite de l'espoir. Mais les autorités sanitaires le reconnaissent, l'efficacité est encore incertaine. Un essai clinique plutôt positif, un autre sans effet. Le feu est donc plus à l'orange qu'au vert. Les essais vont continuer même après l'autorisation. Et si le médicament est jugé inefficace, il sera retiré.
Un dossier pour homologuer ce nouveau traitement a déjà été déposé devant l'Agence européenne du médicament. Et en cas d'accord, il pourrait donc être utilisé chez nous dès l'an prochain. Un véritable tournant, selon le professeur Dubois, le spécialiste français d'Alzheimer.
C'est une date importante, bien sûr, pour les patients. C'est une date aussi importante parce que depuis de très nombreuses années, on n'avait que des échecs. Alors là, pour la première fois, il y a un médicament qui vient d'avoir l'approbation par l'agence américaine, qui reconnaît, si vous voulez, que ce médicament a un effet surtout sur les lésions de la maladie, c'est-à-dire qu'il diminue très significativement les lésions chez les patients qui sont traités par ce médicament. Quoi qu'il en soit, c'est une première étape, on rentre dans la stratégie thérapeutique. Les réserves, c'est que c'est une approbation américaine, il faut attendre l'approbation européenne, et de toutes les façons, il sera limité à des patients au début de la maladie.
Un propos recueilli par Nerissa Emani.
Le retour devant les assises d'un tueur en série.
Jacques Ranson, déjà condamné à perpétuité pour le viol et le meurtre de deux femmes, ce qui lui avait valu le surnom du tueur de la gare de Perpignan. Il comparaîtra dès ce matin devant le tribunal d'Amiens, cette fois dans la Somme, pour un autre meurtre commis dans les années 80. Nous évoquions hier ici même les cold cases. En voici un exemple, Anne Le Hénaff.
Oui, pendant plus de 30 ans, la mort d'Isabelle Ménage est restée inexpliquée. Le corps de la jeune femme âgée de 20 ans a été retrouvé mutilé près d'un bois à Cachy, à l'est d'Amiens. Il n'y a pas de suspect, aucune piste. Un non-lieu est donc rendu en 1992. Mais des années plus tard, en 2014, Jacques Ranson est arrêté pour le meurtre de deux femmes à l'autre bout du pays, à Perpignan. Les avocats de la famille d'Isabelle Ménage tiquent. Il y a beaucoup de similitudes dans le mode opératoire, notamment des mutilations sexuelles. Ils obtiennent la réouverture de l'enquête et Jacques Ranson, incarcéré pour les meurtres de Perpignan, finit par avouer à sa 7e audition. Même s'il s'est ensuite rétracté, il a donné des détails que seul lui pouvait connaître, assurent les avocats de la famille de la victime.
Anne Le Hénaff pour RTL. Un adolescent de 17 ans placé en garde à vue à Plouérin dans le Morbihan, soupçonné d'avoir tué son père en lui portant plusieurs coups de couteau. Il a filmé la scène avant de se dénoncer lui-même à la police. Le jeune homme a expliqué vouloir protéger sa mère de la violence et des coups subis au sein du domicile familial.
Il est 7h04, la contre-attaque à présent de Jean-Luc Mélenchon, critiqué de toutes parts, à droite comme à gauche depuis dimanche, et ses propos sur l'attentat commis par Mohamed Merah.
Le chef de file des Insoumis, qui se dit l'objet d'un coup monté, a choisi hier de se poser à son tour en victime. Victime d'une vidéo cette fois, stratégie interprétée par beaucoup comme une tentative de diversion après son dérapage du week-end au Roland complotiste, Jacques Serret.
Oui, Jean-Luc Mélenchon tente de désamorcer la polémique.
Je veux renouveler à cet instant, comme je l'ai fait à beaucoup d'autres, renouveler l'expression de ma compassion pour les victimes et les familles des victimes.
Quelques mots d'apaisement, mais le leader des Insoumis ne s'attarde pas sur ses propos tenus dimanche. Pas d'explication sur cette phrase, je cite « Tout ça c'est écrit d'avance en parlant des attentats », mais plutôt une riposte dans un ton grave et ému. Jean-Luc Mélenchon dénonce un appel au meurtre après la publication de la vidéo d'un youtubeur mettant en scène une attaque armée fictive contre un électeur insoumis.
Il s'agit d'un site influent d'extrême droite et cette vidéo a déjà été vue 100 000 fois. Je nous place sous la protection de votre opinion. Je suis certain qu'aucun d'entre vous n'approuve une telle mise en scène et que plutôt vous êtes soulevés de dégoût et d'effroi.
Jean-Luc Mélenchon annonce porter plainte à titre individuel, mais diffuse aussi un appel à signature en ligne pour une plainte collective, comme une tentative de contre-feu après 24 heures sous les critiques.
Jacques Serret du service politique de RTL. En bref, à l'étranger, cette attaque au Canada, 4 membres d'une famille musulmane tués, 1 enfant blessé dans une ville du sud de l'Ontario. Ils ont été percutés par un camion. Le suspect, un homme de 20 ans, a été arrêté, inculpé. Les enquêteurs parlent d'un acte prémédité.
Le Covid ne rassemble-t-il pas fait le poids face à la potion magique des Gaulois. Enfin débarrassé du virus, le village d'Irréductible rouvre ses portes demain. Vous avez compris que nous allons partir en reportage dans les allées du parc Astérix. C'est dans un instant sur RTL. Bonne journée à tous.
RTL Matin.
7h08, la suite du journal de Dominique Tenza. Presque 7 mois de fermeture, les Gaulois s'apprêtent donc à rouvrir leur village.
Et le grand jour, c'est demain, avec quelques conditions particulières. Néanmoins, une jauge à 65%, un masque obligatoire et un marquage au sol pour garantir la distanciation. Pour le reste, rien ne change. L'ambiance, la musique, les personnages, les manèges et même l'odeur du sandwich au sanglier. Juliette Jay, vous avez pu assister aux derniers préparatifs.
Oui, on est au milieu du village gaulois. Les manèges tournent à vide. Les techniciens s'activent pour les tester avant l'arrivée du public. Thomas Vallée, directeur de la maintenance sur le parc.
Bon, je vais juste mettre tout en soi la traction. On va se diriger directement vers le bateau.
Le bateau, c'est la galère qui se balance d'avant en arrière. On vérifie les barrières de sécurité pour ne pas tomber.
Ça, on entend bien le blocage. On peut pas lever l'anse. Elle est complètement bloquée.
Reste donc à tester la traction. Je monte avec Loan et Lilou, deux sœurs qui ont gagné une journée privée gratuite dans le parc en avant-première.
Là, on est dans la traction, vous êtes prêts ?
Bonjour et bienvenue à la galère pour des raisons de sécurité. Merci aux accrochés.
Vous l'avez compris, ce n'est pas trop mon truc. Les filles, elles, ont adoré.
Trop bien. Quand on est un peu à la verticale, ça fait peur, mais c'est bien, comme si on volait un peu.
Du côté des restaurants, on remet les viennoiseries en vitrine. 1000 saisonniers ont été embauchés pour l'été. Et la réouverture va se faire avec un protocole sanitaire très strict. Delphine Ponce dirige le parc Astérix.
Port du masque obligatoire pour tous les visiteurs à partir de 11 ans. 900 points de distribution de gel hydroalcoolique sur le parc.
Pour elle, c'est un soulagement d'entendre de nouveau cette musique entêtante. Après 7 mois d'attente.
De se revoir, notre personnel saisonnier avec leur veste rouge et puis de voir le parc qui commence à revivre.
Le parc rouvre avec une jauge à 65%. Il faut absolument réserver son billet à l'avance.
Reportage de Juliette Jay. Réouverture demain également des salles de restaurant fermées depuis le 30 octobre dernier. Emmanuel Macron, qui poursuit d'ailleurs son tour de France dans la Drôme aujourd'hui, a d'ailleurs prévu de s'entretenir avec des professionnels du secteur.
C'est l'ultime rodage ce soir pour les Bleus, à une semaine de leur entrée en lice à l'Euro.
Deuxième et dernier match de préparation contre la Bulgarie, ce sera au Stade de France à 21h05 et pour la première fois devant 5000 spectateurs. Objectif, maintenir la confiance, continuer de souder le groupe et procéder aux derniers ajustements. La marge de manœuvre est serrée pour Didier Deschamps, le sélectionneur, Philippe Sanfourche.
Oui, deuxième et déjà dernier test grandeur nature. C'est la première fois depuis qu'il est sélectionneur que Didier Deschamps a aussi peu de temps et de matchs pour préparer une grande compétition. Pas le temps d'innover, donc il faut roder l'équipe type qui débutera à l'Euro face à l'Allemagne dans une semaine. Et Didier Deschamps a déjà ses 11 joueurs en tête.
Dans mon esprit, oui. Heureusement que j'ai les idées claires, mais d'ici là, il peut avoir des plans B, C, D.
Peu de suspense toutefois ce soir. Le tout frais champion d'Europe avec Chelsea, l'infatigable N'Golo Kanté va retrouver ses camarades de jeu.
J'ai commencé le travail avec les préparateurs physiques de la sélection et aujourd'hui, je me sens bien et prêt à démarrer la compétition.
Olivier Giroud, désormais remplaçant, devrait lui entrer en fin de rencontre à la place ou en complément de Karim Benzema. Pas question de polémique, qui est un karting ou une Formule 1, Giroud préfère en rire.
Après l'Euro, si on gagne l'Euro, je l'inviterai sur un circuit de cartes et on se tirera la bourre aux cartes, voilà.
Sourire de façade ou vrai esprit de corps, à eux de démontrer ce soir que la concurrence est bien positive.
RTL Foot à suivre sur RTL dès 20h, spécial équipe de France. Le match sera à suivre sur M6. En tennis, notez la qualification hier pour les quarts de finale de Roland-Garros des deux favoris, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Et puis en rugby, le coup dur pour Charles Olivon, capitaine de l'équipe de France, troisième ligne toulonnais, blessé lors du dernier match contre Castres. Il souffre d'une rupture du ligament croisé, va devoir être opéré, ce qui devrait malheureusement l'éloigner des terrains un long moment.
On termine ce journal avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Saint-Cloud.
Avec les pronostics de Dominique Cordier, le 15, le 2, le 5, le 12, le 4, le 10 et le 16. La dernière minute, c'est le 12, Wood City.
Merci beaucoup Dominique Tenza. 7h12, la politique avec vous, Olivier Bost, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Matinale spéciale sur la région Île-de-France, la campagne s'anime et s'envenime, mais dans notre sondage BVA Orange RTL ce matin, ça ne bouge pas Olivier.
Eh bien, s'acharner à faire campagne du matin au soir, attaquer ses adversaires vertement et même balancer quelques boules puantes, décidément tout ça n'a que bien peu d'effet. Avant de regarder dans le détail, en bas de classement, la course des petits chevaux à gauche, il faut bien constater que le trio de tête est imperturbable ou presque. Valérie Pécresse, la présidente sortante, anciennement Les Républicains, continue de faire la course en tête, bien loin de la concurrence, 33% selon BVA des intentions de vote. C'est un peu mieux que son score de 2015. Le candidat du Rassemblement National, Jordan Bardella, est à 19%. Il est très présent dans les médias nationaux. Il est présenté comme le meilleur d'entre eux au RN par Marine Le Pen. Mais il fait à peine mieux que ce qu'a fait son prédécesseur il y a 6 ans. Encore une fois, comme dans les Hauts-de-France, l'irrésistible ascension du Rassemblement National ne se mesure pas partout dans les intentions de vote. Ce qui ne veut pas dire, entendons-nous bien, qu'une victoire en PACA, par exemple, ne fera pas totalement oublier ses scores moyens. En tout cas, l'Île-de-France reste une terre difficile pour le RN. Jordan Bardella n'est pas aujourd'hui une menace au second tour pour la sortante Valérie Pécresse.
Comment se situe le candidat de la majorité présidentielle ? Alors, faut peut-être rappeler son nom.
Oui, alors Laurent Saint-Martin, effectivement, toujours peu connu, un francilien sur 4 seulement connaît son nom. Et pourtant, cette popularité est en forte progression, mais son score, lui, ne bouge pas. 15% des intentions de vote, proche de l'étiage national d'En Marche. En soi, ce n'est pas déshonorant, mais l'effet des 5 ministres sur sa liste se fait attendre. Marlène Schiappa cogne dur, mais est-elle identifiée comme la tête de liste à Paris ? La difficulté pour la majorité présidentielle est qu'elle aura bien du mal à trouver son rôle avant le second tour. Il n'est pas question, tous le répètent, de s'allier avec la gauche, bien trop sectaire en plus d'être éclaté. Mais ils ne pourront pas non plus servir de force d'appoint à la sortante Valérie Pécresse qui l'a rejetée. Leur risque, en fait, c'est que des électeurs entre les deux tours finissent par choisir un vote utile, un vote pour une victoire. Et pour l'instant, ce n'est pas Laurent Saint-Martin qui est le mieux placé pour ça.
Bah alors, venons-en enfin à la gauche. Vous parliez d'une course de petits chevaux.
Et oui, et dans cette bataille homérique, l'écolo Julien Bayou est en tête dans notre sondage BVA. 12% des intentions de vote. Audrey Pulvar, dont l'image s'est fortement dégradée, est à 10% pour la candidature PS, donc. Et Clémentine Autain, pour la France Insoumise, est à 8%. C'est la bataille pour le leadership à gauche. Et comme les additions ne fonctionnent pas, même même si tout ce petit monde se retrouve et s'allie au second tour, ils arriveront difficilement à venir perturber l'avance de Valérie Pécresse. La présidente sortante est donc très bien placée pour l'emporter dans 3 semaines. Pour sa candidature à l'élection présidentielle, c'est essentiel, mais il y manquera peut-être un peu d'adversité et de panache pour faire passer cette régionale pour un exploit.
Merci beaucoup Olivier Bosse. Dans un instant, nous allons retourner à Melun pour la suite de notre matinale spéciale régionale et évoquer la sécurité aux abords des lycées. Et puis nous ferons un point très optimiste avec Sophie Orange sur les tout derniers chiffres de l'épidémie.
Yves Calvi, RTL Matin.
7h18, la grande question, est-il finalement raisonnable de rouvrir demain l'intérieur des restaurants, de modifier les jauges au cinéma ou au musée, de rouvrir les parcs d'attractions ou les salles de sport? Bonjour Sophie Orange.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Pour le dire autrement, où en est l'épidémie Sophie?
La situation est bonne, pour ne pas dire très bonne. Les épidémiologistes en rêvaient, les Français l'ont fait. On devrait atteindre les 5000 nouveaux cas par jour d'ici la fin de la semaine. C'était l'objectif fixé par Emmanuel Macron pour ouvrir mi-décembre après le deuxième confinement. Mais 6 mois plus tard. Et entre-temps, on a subi une troisième vague.
Alors, soyons plus précis, que disent les chiffres dans le détail
Un taux d'incidence à 80 en moyenne sur toute la France. C'est le niveau de début septembre avec un très haut niveau de tests. 18 départements en dessous de 50. Environ 2500 patients en réanimation. On était à 6000 le 26 avril. Ouais. Dans le même temps, le nombre de personnes hospitalisées a été divisé par 2 en un mois et demi. Selon les indicateurs, ça varie. Mais bon, on peut considérer qu'il y a une baisse en moyenne de 20% par semaine. Une belle descente en forme de toboggan, m'ont dit plusieurs experts, on voit bien l'image. Et figurez-vous qu'en Corse, depuis le 20 mai, plus un seul cas positif chez les plus de 70 ans qui sont les plus à risque.
Alors, les experts se sont-ils trompés ou ont-ils éventuellement noirci le tableau?
Si vous voulez, ils espéraient cette situation. C'était l'hypothèse la plus optimiste, mais plutôt autour du 15 juin plutôt que le 9. Ils craignaient la réouverture des écoles le 26 avril, les terrasses pleines depuis le 21 mai. Ils s'inquiètent aussi de l'arrivée du variant indien, mais la tendance est toujours très bonne grâce au climat, très certainement. Mais aussi et surtout grâce à la vaccination, avec encore un nouveau record la semaine dernière. Plus de 4 millions de personnes ont reçu une injection en une semaine. Et ça va encore augmenter au cours du mois de juin. Un vaccin qui protège des formes graves, mais qui diminue la transmission du virus quand le schéma vaccinal est complet.
C'est donc l'optimisme qui règne?
En tout cas, le moral des Français s'améliore, si l'on en croit la dernière étude de Santé publique France. 19% souffrent encore d'état dépressif en mai, contre 22% en avril. C'est supérieur à ce qu'on observait avant l'épidémie, 9 mois de plus tout de même. Mais c'est la première baisse depuis octobre 2020. Oui. Le retour à une vie presque normale redonne des perspectives.
Alors Sophie, évidemment, dernière grande question. Pour cet été, à quoi faut-il s'attendre?
On garde le masque en extérieur au moins jusqu'à fin juin. L'idéal serait de démarrer l'été avec 2000 nouvelles contaminations par jour pour être capable de remonter le moindre cas et éteindre tous les foyers. Et bien sûr, augmenter encore et toujours la cadence de vaccination.
Merci beaucoup Sophie Orange. Je vous rappelle que notre rendez-vous avec le professeur Jean-François Delfraissy aura lieu ce matin en direct à 7h40 dans ce studio avec Benjamin Sportouche.
RTL Régional 2021.
RTL, et vous le savez, en direct de Melun, en Seine-et-Marne, édition spéciale régionale en Ile-de-France, où la sécurité, qui n'est pourtant pas une compétence de la région, est le thème avancé par les candidats. On voit ça avec vous, Vincent Serrano, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Et vous vous êtes intéressé à la sécurité aux abords des lycées, théâtre régulier de guerres de bandes, d'affrontements, des dizaines d'agressions depuis le début de l'année, des jeunes Français poignardés, massacrés, qui parfois trouvent la mort ou sont plongés dans le coma, comme au lycée Léonard de Vinci de Saint-Michel-sur-Orge, où vous êtes rendu, Vincent.
Et où la douceur du chant des oiseaux contraste avec la violence des coups de marteau et de coups de pied qu'a reçu sur ce parvis au pavé défoncé par endroits Draman. Le 28 mai dernier, l'adolescent de 15 ans est plongé dans un coma artificiel et 3 jours plus tard,
bonjour, contrôle des sacs,
les élèves voient débarquer devant leur lycée 5 armoires à glace, toutes de noir vêtues, l'une des brigades régionales de sécurité. Alors, à droite, Walid regarde à l'horizon depuis un point surélevé.
C'est en cas où, en fait, un groupe d'individus qui paraîtrait suspect arriverait et donnerait l'alerte. Ça peut venir de là, de derrière, sur le côté là-bas.
Et devant la grille, Mamadou, le chef de cette brigade, les bandes rivales, c'est l'inquiétude.
Maintenant, on a une présence dissuasive. C'est beaucoup la médiation. On parle beaucoup avec les élèves. Voilà, on établit des relations de confiance. C'est ce qui nous permet parfois d'avoir des infos en amont et d'anticiper, d'appeler les forces de l'ordre.
Et le contrôle de sac?
Oui, bien sûr. On a déjà retrouvé des bouteilles d'essence, on peut retrouver de l'acide. Ce dispositif-là, il est mis en place parce qu'il y a un contexte très particulier. Quoi.
Et parce que la région l'a proposé aux proviseurs de ce lycée qui ne connaissaient pas l'existence de ces brigades régionales de sécurité, les élèves non plus. Et plus inquiétant pour Younes et Karim, leur présence ne les rassure pas vraiment.
Ça va servir à quoi contre un groupe de 25? Ils sont là juste pour faire beau, quoi. Ils disent ça va protéger les élèves, ça va protéger personne. Il y en a qui sont protégés, mais moi, c'est comme s'il n'y avait personne.
l'impression. Puis même les faits, ils se sont passés quand? Vendredi. On peut venir tout de suite après, ça va servir à rien.
Ce qui frappe les parents rencontrés dans leur voiture, c'est le faible équipement de cette brigade. Un talkie et une paire de gants.
Non mais voilà, ça ou rien, c'est pareil quoi. La police peut intervenir très rapidement, ils ont leur expérience de policier, hein, y a pas de problème, mais les jeunes les voient, ils fuient ou alors ils ont plus peur. C'est pour ça qu'aujourd'hui ils agressent en pleine rue, en plein jour. Comment des jeunes de 14 ou 15 ans, ils peuvent se dire je vais aller attaquer un jeune et je lui mettre un coup de marteau dans la tête? Comment faire pour pas que ça arrive, quoi. C'est plus possible, quoi. C'est tous les jours, on a un fait divers.
Alors, deux mères de famille m'ont expliqué qu'elles sont en train de déménager. La rentrée de leur enfant se fera dans un autre établissement. Et puis, ce qui m'a frappé, c'est le balai incessant de voitures par dizaines, des parents comme Karine qui ne prennent plus le risque de voir leur enfant partir seul le matin au lycée.
Je me suis dit, mais où ai-je mis ma fille à l'école? D'habitude, elle prend le bus et je l'amène et je viens tous les jours. Je viens la récupérer. Ah, c'est terminé, c'est terminé. À un moment donné, si ma fille, ça lui arrive, c'est des bagarres tout le temps. La dernière fois, c'en était un qui était tout nu devant le lycée. C'est pas normal, non. À un moment donné, il faut que ça s'arrête.
Alors, on retrouve le long de la grille Mike, bien 2 mètres de haut, c'est ça. Vous avez de plus en plus de mal à remplir votre mission.
Ce qui est impressionnant, c'est que ils ont pas de conscience, en fait. Ils sont de plus en plus violents. Il faut très peu pour que ça parte en vrille totalement, en fait. Franchement... quand on est là, on fait du mieux qu'on peut.
Et je vous rappelle les effectifs de ces brigades régionales de sécurité. 5 équipes de 5 personnes pour sécuriser potentiellement les abords de 465 établissements.
Reportage très impressionnant de Vincent Serrano à Saint-Michel-sur-Orge, accompagné de Thibault Renoir. Nous retournerons à Melun pour la suite de notre journée spéciale, bien entendu. Dans quelques instants, on va retrouver nos grosses têtes, la météo avec Louis Bonin qui est d'ores et déjà avec nous. Bonjour Louis.
Bonjour.
Et une nouvelle pépite musicale signée Anthony Martin. Bonjour cher Anthony.
Bonjour Yves.
A tout de suite.
A tout de suite.
Et le matin, Yves Calvi. Il est 7h27. Anthony Martin, bonjour. On retrouve avec plaisir votre pépite musicale.
Alors, c'est aujourd'hui l'anniversaire d'une des voix les plus singulières de l'univers pop-rock.
C'est bon, ça.
Bravo.
C'est pas très difficile.
Bonnie Tyler a 70 printemps ce mardi. Elle a été repérée en 75. Elle chantait avec son groupe dans une boîte de nuit au rez-de-chaussée. Et un chasseur de talent avait entendu parler du groupe qui chantait au premier, mais il s'est trompé d'étage. Et voilà. Bon, de la chance donc. Et cette voix unique, elle n'avait absolument pas respecté la consigne des médecins après une opération des cordes vocales. Elle est très bavarde, elle a trop vite reparlé alors qu'elle aurait dû se taire pendant 6 semaines. Voilà comment est née cette voix rocailleuse, peu de temps avant d'enregistrer It's a Heartache, autre immense succès en 77. À l'époque, Bonnie Tyler était présentée comme le Rod Stewart féminin. Elle a toujours dit qu'elle avait adoré cette comparaison parce que Rod Stewart était déjà une star quand elle n'était qu'une chanteuse dans les clubs. Et 30 ans plus tard, comme un clin d'œil, Rod Stewart a enregistré à son tour It's a Heartache. Ça lui va très bien et c'est notre pépite du jour. Rod Stewart chante du Bonnie Tyler. Le chagrin d'amour par Rod Stewart, extrait de son album Still the Same, sorti en 2006.
Ils ont aussi en commun leur coiffeur, ces deux-là, non?
Ah oui, bien sûr, beaucoup de choses en commun, le coiffeur, parfois c'est des costumes aussi.
Bon, merci de me le
confirmer. Mais ils chantent surtout très bien.
On est d'accord. À demain pour une nouvelle pépite, Anthony. Notre rendez-vous avec les grosses têtes, avant de les retrouver à partir de 15h30, ce matin, il est question de Stéphane Plaza.
Non mais en fait son problème c'est même pas l'absence de culture.
C'est dyslexie.
C'est une vraie dyslexie.
Oui mais je suis dyslexique. Mais pourquoi on t'a jamais soigné?
Bah, ça soigne pas.
Mais si la dyslexie,
non.
Tu vas chez une orthophoniste.
Mais j'ai été, bien sûr.
Oh, fou,
mais
guérit, bien quand même. Ça se guérit pas.
Ça se guérit pas, pas du tout. Tu dis.
T'aurais peut-être pu changer d'orthophoniste.
Il est tellement dyslexique qu'il est allé chez une orthopédiste.
Allez, on retrouve toute l'équipe à partir de 15h30. Notre météo en quelques mots, Louis Bonin.
Oui, avec du soleil quasiment partout. Le soleil qui va gagner du terrain par rapport à hier, sauf dans l'Est. Hein. C'est vrai qu'on a encore quelques averses ce matin entre Lorraine et Alsace. Ça sera encore le cas cet après-midi. Toujours de ces régions du Nord-Est jusqu'aux Alpes, en descendant vers la Côte d'Azur et même une partie de la Corse. Dans toutes les autres régions, donc du soleil toute la journée. Les quelques brumes, brouillards de ce matin près de la Manche vont vite disparaître. Et les températures de cet après-midi vont un peu grimper par rapport à hier. 21 à 26 degrés dans la moitié nord. encore 26 à 30 degrés dans la moitié sud.
Il fait beau, profitez-en. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h31, le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce 8 juin. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et on commence par une vacherie, enfin une histoire de vaches. Figurez-vous qu'elles vont devoir porter le masque, elles aussi. Pas contre le Covid, mais contre les rototos. Il s'agit de piéger les gaz à effet de serre et lutter ainsi contre le réchauffement climatique. Explication de Delphine Méchior de Cargill France qui commercialise le dispositif.
C'est un petit dispositif portable que l'on place au-dessus du museau de la vache. Il a pour objectif de récupérer le méthane qui va être exhalé par le nez et par la bouche et il va le transformer en CO2 et en eau, le CO2 étant beaucoup moins impactant pour l'environnement que le méthane.
Donc la vache devra bien garder son masque sur le nez.
Elle devra le garder sur le nez. La vache peut boire, se nourrir, ça ne la dérange pas. On arrive à une diminution de 50% des émissions.
Propos recueillis par Virginie Garin, 50% tout de même.
Ah oui, c'est énorme. Nous aussi, pour l'instant, on garde le masque, mais on déconfine, J-1 avant la phase 3.
Et dès demain, le couvre-feu sera décalé à 23h, les salles de sport vont rouvrir, et puis les restaurants vont à nouveau pouvoir accueillir des clients en salle avec une jauge. Pour ceux qui n'avaient pas de terrasse, c'est une délivrance. C'est le cas du Christine dans le 5e arrondissement de Paris. Mais le patron Laurent de Chaume va devoir s'adapter.
Ce qu'on va essayer de faire, c'est faire moins de clients, mais peut-être qu'ils dépensent un petit peu plus. Bon, il n'y aura pas de renouvellement de table, donc ils pourront prendre leur temps, et ça sera peut-être la compensation qu'on aura. On fera les comptes à la fin, on verra bien. Aujourd'hui, on retrouve nos assiettes, enfin, on retrouve la vraie vaisselle, on va dire. Et nous, on avait hâte vraiment de remettre tout en place. Ça fait plaisir.
Laurent de Chaume avec Agnès Bonfillon. Tant bien que mal, Jean-Luc Mélenchon essaie d'éteindre l'incendie allumé par ses propos liant présidentiel et attentat. Le leader de la France insoumise se dit mal compris. Il dénonce aussi un appel au meurtre après la diffusion d'une vidéo d'un youtubeur d'extrême droite qui met en scène l'exécution d'un faux militant insoumis. Un contre-feu donc, mais pour le grand rabbin de France Haïm Korsia, les paroles prononcées dimanche restent extrêmement graves.
Ce qui me gêne terriblement, c'est que c'est quelqu'un de très cultivé. Et pour lui, il n'y a pas de possibilité d'erreur de mot. Quand il dit un mot, il pense un mot. C'est très grave de jouer avec les mots dans un temps d'hyper-violence de la société où on a besoin de bienveillance, on a besoin d'apaisement, on a besoin d'intelligence et pas de mettre de l'huile sur le feu et pas d'encourager des sphères qui ont toujours joué contre la République.
Haïm Korsia, le grand rabbin de France, invité d'RTL Soir hier avec Thomas Soto. Pour la première fois depuis près de 20 ans, un médicament contre la maladie d'Alzheimer a été approuvé. Les autorités sanitaires américaines ont donné leur feu vert à l'Aduhelm. Ce produit est efficace sur les causes de la maladie. Il faut maintenant mener des essais cliniques pour voir s'il agit sur les symptômes. Ça n'était pas arrivé depuis plus d'un an.
Chers collègues, je vous souhaite la bienvenue à Strasbourg. C'est un jour très important. Après plus de 15 mois, nous sommes de retour à notre siège à Strasbourg.
Les députés européens ont siégé hier au Parlement à Strasbourg, donc moitié en distanciel, mais tout de même, depuis le début de la pandémie, toutes les sessions se tenaient à Bruxelles. Une tuerie raciste au Canada, en Ontario précisément. Un homme a foncé sur une famille musulmane au volant de son pick-up. Un acte prémédité. 4 personnes ont été tuées et un enfant a été grièvement blessé. Le tueur est âgé de 20 ans. Il a été arrêté.
Le football, dernier match avant l'Euro pour les Bleus.
C'est ce soir face à la Bulgarie au Stade de France, devant 5000 spectateurs invités, notamment des soignants et des policiers. C'est le moment bien sûr des derniers réglages, d'autant que la dernière fois, le Pays de Galles était réduit à 10. Et pour Didier Deschamps, c'était un peu trop facile.
C'est bien d'être dans la difficulté. Heureusement, j'ai un groupe tellement de qualité qu'à travers les séances d'entraînement, il y a de la difficulté. Donc ça amène après à revoir, à en parler avec les joueurs. Il y a du repentant. Ils sont en fond et tant mieux.
À Roland-Garros, pas de surprise, Nadal et Djokovic se sont qualifiés pour les quarts de finale, mais le Serbe a été bousculé par le jeune Italien Lorenzo Musetti, qui lui a pris 2-7. À suivre aujourd'hui, les premiers quarts de finale, précisément, avec notamment le choc Medvedev-Tsitsipas. Et puis devinez, Yves, qui sera la première star depuis l'épidémie à se produire à New York dans une salle de concert. C'est lui. Qui va reprendre son spectacle Springsteen on Broadway à partir du 26 juin. Pour entrer, notez qu'il faudrait être vacciné.
Merci beaucoup. Isabelle Choquet. On se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Et ce sera la face cachée des recrutements à l'époque de MeToo. Bonnes mœurs exigées et pour s'en assurer, tous les moyens sont bons.
Rendez-vous est pris à 8h40. À tout à l'heure. Bonjour François.
Bonjour Yves.
Il est 7h35. Les trafiquants de moteurs se sont fait rattraper par la patrouille.
Oui, vous vous souvenez du scandale du dieselgate en 2015. Eh bien, un accord financier est sur le point d'aboutir. Ce scandale aura été l'un des plus coûteux de l'histoire de l'industrie. Vous allez le voir, il a changé profondément l'automobile.
Vos explications dans un instant.
RTL Matin, 7h, 9h30.
Avec Yves Calvi. RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h38, Langue l'écho avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
L'épilogue du scandale du Dieselgate approche.
Oui, souvenez-vous, c'était en 2015. On avait découvert que le constructeur auto allemand Volkswagen avait truqué ses véhicules diesel de façon à ce que les tests de pollution passés par chaque nouveau modèle ne révèlent pas la totalité des émissions polluantes. À l'époque, 11 millions de véhicules Volkswagen avaient ainsi été achetés par des consommateurs trompés par le comportement frauduleux de l'entreprise. Alors il y a eu une très longue enquête interne.
Oui.
Plusieurs dirigeants de l'entreprise ont été mis en cause, parmi lesquels Martin Winterkorn, le PDG de l'entreprise de l'époque. Mmh. Il va donc payer 10 millions d'euros à son ex-employeur.
Ah bon ?
Au titre du préjudice qu'a subi l'entreprise. Les actionnaires de Volkswagen devraient approuver cette transaction le mois prochain.
Et ça met pour autant fin aux poursuites ?
À celle qui avait déclenché l'entreprise, oui, mais Winterkorn est également poursuivi par la justice allemande et la justice américaine. Ça, c'est pas fini. Comme d'autres dirigeants de la firme, d'ailleurs. Au total, cette affaire aura coûté à ce jour 32 milliards d'euros à Volkswagen. 32
énorme.
Milliards.
Oui.
En amende et en indemnisation diverses. En Allemagne, vous savez, c'est un acheteur du modèle Charan qui a mené la fronde. Il avait payé son véhicule d'occasion 31 000 euros et il en demandait tout simplement le remboursement parce qu'il disait « ça fait 50 ans que ma famille est cliente de la marque, j'ai été abusé ». Il a été suivi par des dizaines, des centaines de milliers de consommateurs. Des poursuites ont été engagées non seulement en Allemagne mais aux États-Unis, mais au Royaume-Uni, en Australie, etc. 32 milliards, pour vous donner une idée, c'est la somme que le constructeur investit sur plusieurs années pour passer à l'électrique. Le diesel aura probablement été la fraude la plus coûteuse de l'histoire. Et en plus, il aura changé durablement l'automobile.
Parce que les pratiques des constructeurs ont vraiment changé après
ça ? Oui, bien sûr, notamment pour les tests, bien sûr. Mais plus encore, cette affaire a accéléré le déclin du moteur thermique au profit de l'électrique. Elle a déclenché une prise de conscience presque universelle de la pollution créée par les moteurs à carburation. Le diesel ne s'en relèvera jamais. Le scandale l'a littéralement tué. Alors que les moteurs diesel de dernière génération sont excellents au plan de l'environnement, qu'ils émettent moins de carbone qu'un moteur à essence, mais l'impact psychologique de la fraude associé au souvenir des fumées noires émises par les vieux diesel, eh bien tout ça, ça a achevé cette technologie. Au point que même les constructeurs les plus avancés en diesel et les plus motivés comme Peugeot, Citroën, et bien ils ont tout simplement renoncé à en proposer.
Mais ça veut dire que les Français n'en achètent plus ?
La part de marché s'est effondrée. Avant l'affaire, près de 3 voitures neuves sur 4 achetées en France roulaient au gazole.
Oui.
On est tombé à la moitié en 2017, juste après la crise. Et c'est aujourd'hui moins du quart des voitures neuves. Avec une forte différence entre les villes et les campagnes. Mmh. En ville, cette motorisation a presque disparu des concessions. Les véhicules diesel seront d'ailleurs interdits à Paris et dans sa banlieue à partir de janvier 2024, à Strasbourg à partir de 2025, tout comme à Grenoble, avant l'interdiction totale du moteur thermique qui pourrait intervenir vers 2030.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, François Langlais. On vous retrouve bien entendu dès demain matin sur l'antenne et d'ici là sur le site rtl.fr. Il est 7h41. Bonjour Benjamin Sportouche.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy qu'on n'a plus entendu depuis des semaines. Nous sommes à la veille de la deuxième phase du déconfinement. Est-ce le bon tempo ? Et puis, faut-il vacciner les enfants pour enfin éradiquer cette épidémie ?
A tout de suite avec le président du conseil scientifique.
RTL Matin,
avec Yves Calvi.
Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Benjamin Sportouche, vous recevez donc ce matin le président du conseil scientifique, le professeur Jean-François Delfraissy.
Bonjour Jean-François Delfraissy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Depuis quelques jours, sur Internet circulent des mails que vous avez échangés avec votre homologue américain, le docteur Fauci, des mails de mars 2020. Vous dites alors, dans ces mails, subir une pression politique énorme, je vous cite, c'est écrit noir sur blanc, pour autoriser l'hydroxychloroquine et en donner à tout le monde. Et vous avez résisté. Qui vous mettait cette pression à l'époque ? L'exécutif ?
Alors je vais vous répondre autrement. Je connais Tony Fauci depuis 35 ans. On a
On a lutté ensemble contre la plus grande pandémie de ce siècle qui reste le VIH-Sida. Vous imaginez si un grand patron français de maladies infectieuses n'était pas dès la mi-mars en train d'écrire à ses homologues étrangers ce what à quoi il sert.
Vous avez raison, mais le contenu donc, nous intéresse.
Je mets autre chose, je mets aussi que la France est en train de rentrer dans le confinement, qu'on n'a pas pu faire autrement parce qu'on n'avait pas suffisamment de tests, oui, et avoir une stratégie de tester, tracer, isoler comme la Corée, qui était le bon modèle, mais nous ne pouvions pas le faire. Et je dis en effet qu'il y a ce buzz autour de l'hydroxychloroquine que je ne sais pas, qu'il y a peut-être un signal et qu'on va rentrer dans les essais randomisés. Donc on remet ça dans son contexte général de mon mail. Et à la fin, je dis, j'ai une pression politique. Oui. Et alors je vous retourne, c'est à vous les journalistes de regarder qui faisait la pression politique sur cette période du mois de mars. Et il y avait une pression sociétale et politique qui était très difficile, hein, vous vous souvenez ?
Il y avait des politiques médecins,
Par exemple, il y avait des politiques médecins, il y avait des politiques du Sud, il y avait des politiques du Nord, il y avait des politiques de droite, il y avait des politiques de gauche, et qui disaient, mais comment se fait-il qu'on ne donne pas l'hydroxychloroquine à tout le monde ? Voilà, c'est tout.
Et est-ce que c'est monté jusqu'au gouvernement, cette pression-là ?
Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus, et je n'avais aucune pression du gouvernement.
C'est dit. Alors, on en vient à l'actualité. Demain, nous entamons la deuxième phase du déconfinement avec l'ouverture des intérieurs, des restaurants, des salles de sport. C'est attendu par beaucoup de monde. On voit qu'il y a beaucoup de monde dans les rues. Vous aviez écrit dans votre avis du 6 mai, Jean-François Delfrécy, qu'il fallait attendre les 35 millions de vaccinés pour déconfiner. On n'y est pas. Mais est-ce que pour autant, vous êtes confiant ? Est-ce que vous dites finalement que c'est le bon rythme ?
Écoutez, je pense que la situation est contenue et va dans le bon sens. C'est vrai en France. C'est vrai dans l'ensemble des pays européens. Pour deux raisons. La première, fondamentalement, c'est la vaccination. Et avec une dynamique de vaccination qui va dans le bon sens, on devrait être à 35, 38 millions de vaccinés au 30 juin. Donc c'est de la bonne porte de sortie. Et puis on a aussi un peu de chance. C'est-à-dire que le temps est là. Et l'ensemble des... On l'avait déjà vécu un peu l'an dernier. L'ensemble fait que... on a un virus qui circule moins. Donc on est avec des chiffres qui ont baissé plus rapidement que nous ne l'avions imaginé.
Toboggan, disent les médecins. Donc c'est plutôt le bon tempo qu'a choisi le gouvernement pour ce déconfinement, vous diriez ?
Écoutez, en tout cas pour l'instant, ça se passe bien.
D'accord.
On avait insisté là-dessus dans notre avis. On a un moment un peu complexe là dans deux jours. Pourquoi ? Parce que jusqu'à maintenant, on était à l'extérieur. Mmh. Et on va ouvrir maintenant à l'intérieur. Mmh. Et donc, c'est bien là où ça va se jouer. Donc, l'ensemble...
Vous êtes inquiet ? Vous avez une forme d'inquiétude pour cette nouvelle phase ?
Non, j'ai pas d'inquiétude si les Français sont raisonnables. J'ai pas d'inquiétude si on arrive à maintenir, finalement, le respect des gestes barrières, le port du masque, y compris à l'extérieur, au moins jusqu'au 30 juin. J'insiste, le port du masque, y compris à l'extérieur.
Au moins, ça veut dire
au moins
quoi,
jusqu'au 30 juin.
Est-ce qu'il faudra
je reviendrai après. Oui. Et pour en effet avoir finalement une capacité de conserver un certain nombre de mesures barrières. Il faut en particulier qu'on le fasse dans les très grandes villes. Mmh. Ça va se jouer où ? Ça va se jouer à Paris, ça va se jouer à Lyon, ça va se jouer à Marseille, à Nice et à Bordeaux. Et donc c'est là où ça va se jouer, en sachant que on devrait, avec cette dynamique de vaccination, avoir, je dirais, un été qui devrait se passer dans des conditions plutôt satisfaisantes.
Et on pourra enlever le masque cet été, après le 30 juin, où vous dites « gardons-le par précaution ».
Je pense qu'il sera très difficile de garder le masque après le 30 juin. Il faut être raisonnable. Les gens qui sont à la campagne, les gens qui vont être sur les plages, les gens qui vont se balader, ils vont nous dire « enfin bon, les experts, attendez, arrêtez ». On est capable de porter le masque là où il faut.
Donc à l'extérieur, on l'enlève.
Je dis, faisons attention de ne pas l'enlever maintenant, parce que si on prend une décision maintenant, ça veut dire que dans une certaine mesure, on lève les mesures barrières et pas seulement le port du masque à l'extérieur.
Est-ce que vous êtes inquiet par les variants le variant Delta, anciennement appelé Indien, qu'on voit en Nouvelle-Aquitaine ?
Oui, je suis inquiet par les variants. Alors, reconnaissez aussi que le Conseil scientifique a alerter l'ensemble des autorités sur les variants dès le 18 décembre. Nous avons produit plus de 10 notes ou avis sur les variants. Nous les avons suivis, vraiment traqués de façon extrêmement particulière. Alors, la question est la suivante, c'est ce variant dit indien, il en existe trois types, c'est un variant de type 2, qui est plus transmissible que les autres, mais qui par contre n'a pas cette fameuse mutation dite 484, qui lui permet d'échapper au vaccin. C'est-à-dire qu'il reste sensible au vaccin, mais avec une diminution de sensibilité qui est de l'ordre peut-être de 30 à 40%. Les Anglais sont en train de voir une nouvelle épidémie en Angleterre. C'est-à-dire que c'est parti à partir des clusters indiens, et on peut comprendre pourquoi en Angleterre. Et là, maintenant, le virus et le variant indien dominent sur le variant anglais.
Et vous craignez, en France, que ce genre de variant, un jour, soit insensible au vaccin ?
Non, je crains que nous nous trouvions pendant l'été ou à la rentrée de septembre, avec nous aussi un switch entre la disparition et la diminution du variant anglais pour aller vers le variant indien.
Ah, mais alors à ce moment-là, si le vaccin est efficace ?
Alors le vaccin est efficace, donc avec une diminution d'efficacité. C'est pour ça que finalement, après un été qui, voilà, à mes yeux, va globalement bien se passer si on ne fait pas trop de bêtises, si moi le premier, je ne fais pas trop de bêtises, hein, je me mets dedans évidemment, on devrait passer l'été. Et ensuite, question posée, qu'est-ce qui va se passer à la rentrée ? Avec un changement de temps, avec, vous savez qu'il y a toujours un décalage entre le niveau des contaminations et le moment où elles surviennent, je pense qu'il y aura une reprise en septembre ou en octobre. Est-ce qu'il s'agira véritablement d'une quatrième vague ?
Oui.
Ça sera une reprise. On peut l'appeler quatrième vague, mais elle sera très différente des premières vagues. Pourquoi ? Parce qu'on aura la vaccination.
Donc elle sera faible ou elle sera là ?
Elle sera
un peu
initialement
tapis.
Avec le même niveau. Ce virus, il vit sa vie. Hein. Mais en face de lui, il va trouver une population qui sera en bonne partie. On n'aura pas encore l'immunité en population globale. Je ne pense pas qu'on l'atteigne tout à fait au mois de septembre. On va essayer. Mais en tout cas, on aura une large partie de la population avec des vaccins qui vont protéger en partie contre ces nouveaux variants.
Alors, est-ce que pour éviter cette quatrième vague, est-ce qu'il faut vacciner les adolescents et les enfants, Jean-François Delfrécy ? Beaucoup de nos auditeurs se posent cette question.
C'est une très bonne question. Le gouvernement a commencé à prendre une position la semaine dernière. Le comité national d'éthique doit rendre son avis demain. Évidemment, je ne déflorerai pas ses conclusions. Et vous pouvez tout à fait, je vous conseille d'inviter la présidente du groupe de travail ces aspects, ces enjeux éthiques qui sont importants.
Est-ce que vous incitez les parents à faire vacciner leurs ados, Jean-François Delfrécy ?
Écoutez, vous interrogez demain, à la suite de l'avis du Comité consultatif national d'éthique, on voit bien les enjeux que cela pose. Moi, en tant que grand-parent, vous peut-être en tant que parent, vis-à-vis de vos ados, c'est comment, finalement, trouve-t-on une juste balance entre des enfants qui ne risquent pas grand-chose et, finalement, leur demander de se vacciner parce qu'on n'atteint pas un niveau de population suffisant en population générale.
Par solidarité.
Par solidarité.
Donc, vous le feriez-vous avec vos petits-enfants et vos enfants ?
C'est ma fille qui décidera, bien sûr.
Mais vous lui incitez fortement. Concernant la vaccination toujours, Jean-François Delfrécy, est-ce qu'il faut une vaccination obligatoire des publics les plus fragiles pour atteindre cette immunité, justement ?
Depuis le début, moi, je suis en retrait vis-à-vis de la vaccination obligatoire. Je pense que ça serait une certaine forme de relatif échec. Et je pense qu'elle poussera et qu'elle accentuera des réactions anti-vaccinales, si on la rend obligatoire. On a une excellente dynamique de vaccination en France. Hein. Soyons positifs.
Oui.
Hein. Tout le monde, vous, les journalistes, tout le monde a râlé contre le début de la vaccination. Il y a une excellente dynamique de vaccination. Ouais. J'entends les jeunes qui vont se faire vacciner dans les grands vaccinodromes, ils disent « ça s'est très bien passé ». Donc ça se passe bien.
Et c'est quand la fin, alors, de cette épidémie ? Est-ce que l'été sera un répit, on aura peut-être une quatrième vague. Et après, est-ce qu'il faut attendre 2022 pour que ce soit un vieux souvenir ou c'est pas sûr ?
On va avoir donc possiblement une quatrième vague à l'automne. Et ce virus, à un moment donné, qui mute dans une région très particulière qu'on appelle la protéine Spike, il va être incapable de continuer à trouver, d'avoir la force de nouvelles mutations. Et donc, on va aboutir à un moment donné à ce que ce virus devienne un virus comme les autres virus de type corona. Oui. C'est-à-dire comme un virus saisonnier. Est-ce qu'on va y arriver dès l'hiver 2022 ou est-ce qu'il va nous falloir 2 ans? Je ne sais pas.
Ah, peut-être 2 ans.
Je ne sais pas.
Et on se fait une troisième dose ou une deuxième dose cet hiver?
Et à ce moment-là, on pourra refaire. Moi, personnellement, à mon âge, probablement, j'aurai une troisième dose de vaccin dès l'automne.
Merci beaucoup, Jean-François Delfrécy. Bonne journée à tous et à nos auditeurs.
Jean-François Delfrécy qui évoque une situation contenue et qui va dans le bon sens grâce à la vaccination et au beau temps, le port du masque à l'extérieur, au moins jusqu'au 30 juin, nous dit-il. Et pour la rentrée, j'imagine une reprise, pas forcément une quatrième vague, et ce, grâce à la vaccination. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr et Cyprien Sini surfe avec la fin du télétravail dans un tout petit instant.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Sini.
Vous surfez, Cyprien, ce matin avec la fin du travail obligatoire.
Oui, du télétravail obligatoire.
J'ai dit quoi ?
Le travail.
Je vous prie de m'excuser.
C'est une sorte de fantasme.
Oui, c'est exact.
Et oui, dernier jour aujourd'hui, hein, on s'y était fait.
Pour la belle vie.
Ah, ces journées en pyjama, devant l'ordi. Douche facultative, grignotage à volonté, avec en fond sonore.
Oui, la belle vie.
Roland Garros qui vous berce, les pauses à volonté, les micro-siestes à la demande, les réunions Zoom où quand il y a Klaus de la Compta qui vous fatigue, vous faites le coup classique du...
Dans toutes ces choses, il y a aussi...
Je vous ai perdu, Klaus. Cher Klaus, je vous vois, mais vous ne bougez plus et vous ne parlez plus. Klaus, je vous revois, mais je vous avais perdu.
Ah, le coup de la panne de connexion, nostalgie quand tu nous tiens. Et ben demain, c'est le retour au bureau, il vous attend pied ferme, vous savez, lui, là.
Vous détestez votre boss, il est incompétent, il est responsable d'une partie des dysfonctionnements de votre boîte. Il est trop mou, il parle trop fort, il est insupportable.
Et ben vous allez le retrouver à la machine à café. Je sais que certains appréhendent un peu, hein, que votre coup trouvait des avantages au télétravail.
Le télétravail m'a permis d'éviter tout ce qui est problème de transport, etc.
Oui, non mais alors ça, c'est un faux problème. Hein. Ça, c'était le monde d'avant, les problèmes de transport. Non, maintenant, tout a changé. Maintenant, c'est le vélo, les mobilités douces, le monde d'après, quoi.
Les embouteillages sont de retour. Depuis le 19 mai, date du déconfinement, les véhicules sont de plus en plus nombreux sur la route.
Ouais, non, en fait, on vous doit la vérité. Un niveau transport, c'est vrai que ça fait un petit choc quand même. Après, c'est sympa, vous allez retrouver un vrai bureau, oui.
Dans un bureau, avec tout ce qu'il faut, un ordinateur, un pot à crayon, un presse-papier, wouh ! Un collègue avec des pellicules sur sa veste.
On va retrouver les collègues, vous avez envie de les retrouver les collègues quand même.
30% redoutent les retrouvailles avec les collègues. 30% disent avoir peur de drames humains en revenant au travail.
Ah ouais, carrément, comme quand il y a la queue à la photocopieuse quoi.
Arrête de faire ta maligne. Et c'est peut-être une sépèche. Ah bah essaye, on verra ça.
Le drame humain, quoi. Pourtant, vous les aimez, vos collègues.
L'hypocrisie.
Le manque de franchise.
Les problèmes d'hygiène corporelle.
Oh, ça va, hein, c'est tout à fait supportable. Non, le pire, c'est quand même celui-là.
Il paraît efficace, toujours occupé, prêt à rendre service, très actif. Il parle fort, sait se faire remarquer, mais en réalité, il ne fait rien, ou presque.
Eh oui, celui ou celle qui fait semblant de bosser. Et encore, je suis sûr que même celui-là, au final, vous serez content de le revoir, vous verrez. Faut se lancer. Revenir en présentiel, c'est un peu comme les bonbons acidulés, vous savez.
C'est pas bon, mais c'est bon.
C'est bon, mais c'est bon quand même. Mais oui, ça va vous faire du bien et vous verrez.
Demain sera parfait.
Ouais, enfin, profitez quand même bien d'aujourd'hui, hein, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, en fait. Hein.
Et on vous retrouve ce soir avec Thomas Soto. Merci, Cyprien.
À ce soir.
Il est 8h01.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, il tue son père pour sauver sa mère.
C'est ainsi qu'un adolescent a justifié son crime en Bretagne, récit dès le début de ce journal. À la veille de la nouvelle phase de déconfinement, la situation va dans le bon sens, reconnaît à l'instant sur RTL le président du conseil scientifique. Et puis là aussi, c'est un signe que ça repart. Il y aura du public ce soir au Stade de France pour France-Bulgarie.
La météo, Louis Baudin.
Oui, avec du soleil aujourd'hui, hein, dans quasiment toutes les régions. Quelques nuages quand même près des frontières de l'Est, avec encore des orages cet après-midi, surtout sur les montagnes. Et avec ce soleil omniprésent, les températures presque omniprésentes, les températures vont encore grimper par rapport à hier. 21 à 26 degrés, pas moins dans la moitié nord cet après-midi. 26 à 30 degrés dans la moitié sud.
Bonne journée à tous, merci Louis.
RTL.
RTL Matin.
Tout est parti d'un appel reçu par les gendarmes tard samedi soir. Au bout du fil, un adolescent de 17 ans. Il leur apprend qu'il vient de tuer son père dans son domicile de Ploéren, dans le Morbihan. Il explique qu'il a voulu se venger, que l'homme était violent avec sa mère. Comble de l'horreur, le mineur a même filmé son crime et posté la vidéo sur les réseaux sociaux. Nicolas Bobby.
L'ado de 17 ans ne supportait plus les violences dont était victime sa maman qui avait quitté le domicile conjugal. Samedi, au retour d'une soirée festive où il avait bu, le jeune garçon s'est rendu dans son ancienne maison, a saisi deux couteaux dans la cuisine, s'est dirigé vers la chambre de son père qu'il a réveillé avant de lui porter de multiples coups. Il a filmé la scène diffusée sur les réseaux sociaux et une quarantaine de destinataires, dont des copains de son âge, puis il a composé le 17. Devant les gendarmes, il a déclaré avoir voulu mettre un terme au comportement agressif et violent de son père sur fond d'alcool et à la souffrance que cela engendrait pour sa famille. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place pour ceux qui ont vu l'insoutenable vidéo rapidement retirée d'Internet.
Nicolas Bobby. Et alors que les procédures pour violence conjugale s'empilent dans les parquets, les procureurs demandent ce matin plus de moyens. Ils lancent un appel au gouvernement. Les dossiers se multiplient depuis deux ans, depuis la libération de la parole autour de ces tragédies.
RTL, 8h04, sur le front de l'épidémie, tous les voyants sont au vert.
La situation est contenue, les chiffres ont baissé plus rapidement que prévu, a reconnu il y a quelques minutes sur RTL le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy. Il appelle néanmoins à rester prudent et met en garde contre une quatrième vague à la rentrée, mais qui serait maîtrisée grâce au vaccin. La nouvelle phase de déconfinement peut donc être lancée demain. Le couvre-feu passera de 21h à 23h et les restaurants pourront ouvrir leurs salles. Philippe Demaria, vous avez passé une tête dans cet établissement du centre de Bordeaux.
Oui, avant même d'entrer au Chaperon Rouge, on devine les préparatifs de réouverture au doux bruit de l'aspirateur. Marie-Olga est la patronne.
Et là, tu peux commencer à faire les allers-retours que je t'ai montré.
En cuisine, le chef Damien Lebozec regarde avec dépit son four qui vient de le lâcher.
Remettre un restaurant en route après 7 mois d'inactivité, je cumule les couacs.
Mais rien ne peut entamer son bonheur de rouvrir demain, oublié le début d'année où il a failli tout arrêter.
Et là, on est à fond, très content de reprendre la cuisine, très content. Là, il y a un jus de volaille qui est en préparation et ça fait longtemps que j'en avais pas fait et ça fait longtemps que j'en ai pas fait un comme ça.
Et attiré par ce doux fumé, Marie-Odile, une cliente, passe une tête.
C'est notre meilleure cliente. On est très attachés à nos clients et ils sont attachés à nous aussi.
L'ambiance sympa et la qualité.
Vous avez réservé ?
Bien sûr, pour mercredi et jeudi déjà.
Marie-Odile pourra demain déguster un ceviche de dorade. Le chef a sa carte en tête pour les 10 jours qui viennent.
Philippe Demaria est à la veille de ses réouvertures. Emmanuel Macron est aujourd'hui à Valence, dans la Drôme, où il enverra un message à la filière de la restauration en déjeunant avec des chefs étoilés de la région. Toujours le même objectif pour le président, montrer que le pays repart.
Nous serons avec Yannick Aleno à 8h20 sur notre antenne. Triplement étoilé, je le rappelle. Un tour de France aux allures de campagne électorale à moins de deux semaines des régionales.
Gros plan aujourd'hui sur l'Île-de-France où Valérie Pécresse reste ultra favorite. 33% d'intention de vote au premier tour d'après notre sondage BVA pour Orange et RTL. Elle devance Jordan Bardella pour le RN à 19%, 15% pour le candidat LREM Laurent Saint-Martin. La gauche partie en ordre dispersé se partage les restes. 12% pour l'écologiste Julien Bayou devant Audrey Pulvar pour le PS et Clémentine Autain pour la France Insoumise. RTL, vous le savez, délocalise une partie de ses programmes aujourd'hui à Melun, en Seine-et-Marne. Mais c'est dans le Val d'Oise que nous partons avec vous, Marie-Bénédicte Allaire. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rendue sur ce qu'on appelle le triangle de Gonesse, où la bataille fait rage en ce moment entre les défenseurs de l'environnement et ceux qui portent le projet de la future gare de la ligne 17 du métro.
Oui, au beau milieu des champs de céréales, un tunnelier creuse la future ligne du métro. Les jeunes de Gonesse l'attendent avec impatience.
Il n'y a rien ici.
Le métro, franchement, serait bien, le métro.
Ça permet de faire évoluer la ville et surtout de rapporter du travail.
Jean Castex a confirmé récemment la construction de la gare et une série de projets. Pour Jean-Paul Blasi, le maire PS de Gonesse, ce n'est que justice.
Comme la Seine-Saint-Denis voisine, nous avons le chômage, nous avons un territoire très jeune qui attend de l'espoir, les besoins de formation, l'emploi. Je pense que l'on a là de bonnes décisions qui ont été annoncées.
Mais pour Cécile Coquel, du collectif du Triangle de Gonesse, soutenu par Écolo et Insoumis, pas question de construire sur ces terres fertiles.
Nous, on souhaite la préservation des terres agricoles. Maintenant, actuellement, c'est surtout des cultures céréalières. Nous, ce qu'on veut développer, c'est du maraîchage, enfin, qu'il y ait une certaine diversité de l'agriculture.
Émilie Van de Kies de l'épicerie La Fourmilière se fournit près des agriculteurs locaux. Elle garde aussi les pieds sur terre.
On est quand même le grenier de Paris et donc il faut continuer à l'être. Donc il faut trouver l'équilibre qui va permettre de monter un projet et puis de permettre aux gens de venir en train. Donc je pense qu'il va falloir trouver des compromis.
Entre culture et béton, le triangle de Gonesse cherche encore son avenir.
Merci Marie-Bénédicte Allaire. Le déficit du système des retraites, moins lourd que prévu, d'après le dernier rapport du Conseil d'orientation. Il a atteint l'an dernier 18 milliards d'euros. C'est 5,5 milliards de moins que ce que prévoyaient les dernières estimations. Information RTL d'Anaïs Bouissou.
Dans un instant, dernière mise en jambe pour les Bleus avant l'Euro. C'est ce soir contre la Bulgarie. A tout de suite.
RTL Matin.
8h10, la suite du journal de Jérôme Florin sur RTL. C'est presque un événement en soi, il y aura du public ce soir au Stade de France.
5000 spectateurs invités, parmi lesquels des soignants, des étudiants. Ils auront l'immense privilège d'assister au second test grandeur nature des Bleus avant l'Euro. Ce sera contre la Bulgarie. L'occasion de revoir à l'œuvre le trio Benzema, Mbappé, Griezmann. L'analyse de notre consultant Robert Pires.
Oui, bien sûr qu'on a envie de le revoir et c'est pour ça que Didier Deschamps a fait appel à Karim Benzema parce que il sent qu'il y a du potentiel, que il peut y avoir une certaine complicité justement entre les trois. Je trouve que sur le match du Pays de Galles, ça a plutôt bien fonctionné. On a vu qu'ils essayaient systématiquement de se chercher. Les trois joueurs ont bien occupé leur zone sans vraiment se marcher sur les pieds. Donc oui, on a envie de revoir un petit peu ce trio et on est persuadé qu'avec l'intelligence, la technique et la qualité de chacun, ça peut amener un plus à notre sélection. Après, on sait pertinemment qu'il peut y avoir des blessures. Et maintenant, Didier Deschamps, il a son 11 de départ. Il sait sur qui il va s'appuyer. Mais aussi, ce qui est important, c'est l'état d'esprit des joueurs qui seront sur le banc parce que eux, ils sont amenés à rentrer et amenés à faire la différence. Donc j'espère qu'ils sont dans une position optimale justement pour pouvoir aider les joueurs qui seront titulaires.
Robert Pires avec Philippe Sanfourche, France-Bulgarie, coup d'envoi 21h10, match à vivre sur M6 et RTL. À Roland-Garros, Novak Djokovic et Rafael Nadal qualifiés pour les quarts de finale. Chez les femmes, c'est aussi passé pour la Polonaise Iga Świątek et l'Américaine Cori Gauff, 17 ans. Ce sera son tout premier quart en Grand Chelem. Roland-Garros à suivre toutes les demi-heures sur RTL à partir de 13h.
L'histoire du jour.
Hibernatus existe. Nous l'avons retrouvé en Sibérie. Incroyable découverte de ces scientifique russe, un rotifère d'éloïde, curieux animal microscopique qui est resté congelé pendant 24 000 ans dans le permafrost. Il est revenu à la vie et a pu se reproduire tout seul en plus. Cette curieuse bébête fait un demi-millimètre de long et on peut dire qu'elle nous enterrera tous.
Bon, ce qui vous fait rire, c'est qu'il se reproduit lui-même.
Ouais.
C'était donc Jérôme Florin qu'on retrouvera à 9h pour le point de l'actualité.
Yves Calvi, RTL Matin.
Il est 8h13, les élections régionales approchent à grands pas, le premier tour est donc dans 12 jours maintenant, et on essaye sur RTL d'en éclairer les enjeux et les spécificités aussi. La carte de France est désormais composée, je vous le rappelle, de 13 super régions contre 22 il y a quelques années. C'est François Hollande qui l'avait redécoupée, la promesse c'était des économies et plus de pouvoir décentralisé. Alors ce matin, on va faire le bilan avec notre brigade de l'actualité. Bonjour William Galibert.
Bonjour.
Moins de régions, davantage d'économies, est-ce que c'est aussi simple que cela?
Ah bah non, ça serait trop beau. Donc sur le papier, c'était séduisant.
Oui.
Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. 5 à 10 milliards d'euros d'économies par an, ça c'était l'objectif affiché par François Hollande. Eh bien, au mieux, les dépenses sont restées stables et parfois elles ont même augmenté. Dans les régions qui ont fusionné, tous les salaires des agents territoriaux ont été harmonisés vers le haut. Bien sûr, les organisations sont parfois devenues ubuesques. En Occitanie, par exemple, les locaux de la région à Toulouse et à Montpellier sont devenus trop petit pour accueillir tous les conseillers de la nouvelle grande région. Alors parfois, on a même dû louer le parc des expositions pour que tout le monde puisse se réunir en même temps. Voilà un exemple de simplification administrative. Au lieu d'alléger ce millefeuille, la réforme l'a alourdi, dénoncent même certains élus. Alors tout de même, les fusions de régions ont permis de gagner en efficacité pour les achats publics, les contrats d'assurance ou encore les fournitures, puisque désormais on peut passer des commandes groupées.
Alors William, ôtez-nous un doute, le redécoupage a tout de même eu des avantages.
Oui, et puis certains territoires se sont par exemple retrouvés, Basse-Normandie et Haute-Normandie par exemple, ça semblait pas tout à fait délirant de les regrouper tous les deux. Et puis d'autres régions, un peu à la traîne économiquement, ont pu aussi se rebooster dans leur nouvel ensemble. le Limousin, par exemple, quand il a été rattaché à la plus dynamique Nouvelle-Aquitaine.
Alors, en revanche, on a un effet plus inattendu.
Ces super-régions sont devenues, Yves, un vivier pour candidats à la présidentielle. Voilà. Elles ont donné du poids politique à ceux qui les dirigent, et avec ce poids, beaucoup d'ambition, et donc pas seulement des ambitions régionales. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, par exemple, les patrons de régions ont gagné une plus grande visibilité. Ils gèrent désormais des mastodontes de plusieurs millions d'habitants, et ils imaginent parfois leur fief comme un tremplin vers 2022 ou 2027. Et ça, ce n'était vraiment pas prévu au moment de la réforme il y a 6 ans.
Merci beaucoup William Galibert. Je vous rappelle que RTL Midi sera donc aujourd'hui en direct de Melun avec Christelle Rebière dès 12h30. Dans un instant, notre bureau de vérification de l'information avec Jean-Mathieu Pernin et notre consultation avec le docteur Simès.
RTL Matin. Toujours avec vous. Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
8h17, on regarde ce qui se passe du côté des fausses informations avec vous Jean-Mathieu Pernin, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, pourra-t-on vraiment voyager à l'étranger à partir de demain, comme l'a annoncé le gouvernement ?
Et oui, c'est la grande évasion, ça y est Yves, on lâche les chevaux, dès demain le monde nous appartient à nouveau. Enfin un peu. En effet, demain, ce sera une nouvelle étape du déconfinement puisque ce sera la fin des motifs impérieux pour voyager hors de l'Europe. Alors pour savoir où se rendre, le gouvernement a publié une carte où le monde est divisé en 3 couleurs.
D'accord.
Les pays en vert où les vaccinés pourront voyager sans contrainte, les non vaccinés sur présentation d'un test PCR négatif de moins de 72 heures au retour, les pays en orange où les vaccinés pourront voyager sur présentation d'un test PCR négatif de 70 heures, les non-vaccinés pour un motif impérieux, et enfin les pays en rouge, où les vaccinés ne pourront voyager que pour un motif impérieux, en aucun cas pour des motivations touristiques.
D'accord.
Et le gouvernement d'ailleurs déconseille tout voyage de loisirs vers ces pays. Et en regardant ce planisphère touristique,
oui.
Bon, on s'aperçoit déjà que la majorité des pays sont en orange. Bon, donc il y a des contraintes, même pour les vaccinés. Concernant les pays en vert, ça prête à confusion, puisqu'à partir du 9 juin, donc demain, on pourra y voyager, mais pas forcément s'y rendre. Bienvenue en absurdité.
Ouh là là, il n'y a pas de réciprocité au niveau de l'accueil des touristes.
Et voilà, c'est ça. Par exemple, la France a placé le Japon et l'Australie en vert. Donc, d'accord pour que nos touristes y aillent, mais ni le Japon et ni l'Australie n'autorisent des touristes sur son territoire. Sur son site, l'ambassade du Japon ne délivre plus de visa. Et le site de l'ambassade d'Australie précise que ses frontières extérieures sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Même chose pour les États-Unis, pays classé en orange, où leurs citoyens sont les bienvenus en Europe s'ils ont 2 doses de vaccin. Mais il est encore très difficile pour nous d'aller se promener le long de la 5e avenue de New York. D'ailleurs, hier, sur RTL, avec vous, Thierry Breton, oui. Commissaire européen, a souhaité que les États-Unis accueillent aussi des Européens pour l'été, donc à suivre.
Certaines destinations misent sur le tourisme vaccinal.
Vaccinal, et oui, c'est le cas de la Russie, dont certains tour opérateurs proposent une formule
Sputnik.
Place Rouge, Sputnik V, ou Cuba, qui fait des spots télé avec un slogan incitatif, une plage, un mojito, un vaccin.
Ah bah oui, je suis d'accord.
Mais attention, attention, ce ne sont pas des vaccins reconnus en Europe, donc pas de QR code pour le pass sanitaire. Les Maldives misent aussi sur ce tourisme, comme Malte en Europe, et même la Roumanie, où là vous pouvez recevoir le vaccin Pfizer dans le château de Dracula.
C'est
voilà.
Sérieux ?
Et oui, bien sûr, voilà, on attire le touriste comme on peut. Cet été, donc le All Inclusive se conjugue avec un vaccin.
Ah, quel bon moment. Merci beaucoup Jean-Mathieu Pernin, à demain.
À demain.
RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Mais bonjour Michel.
Bonjour Yves.
Ce matin, vous vous adressez à toutes celles et ceux qui ont des migraines récurrentes.
Et je leur dis, faites du sport. Alors ma contribution pourrait s'arrêter là. Je ne cesse d'enfoncer cette porte ouverte qui consiste à dire que le sport est bon pour la santé, qu'il œuvre à prévenir tous les bobos, des plus bénins aux plus dangereux. Il n'y a donc pas de raison qu'il ne fasse pas aussi du bien à ceux qui collectionnent les maux de tête, les nausées ou présentent une hypersensibilité à la lumière. Mais si j'y reviens ce matin, c'est parce que l'Académie américaine de neurologie vient de boucler une étude où elle démontre par A plus B que tout ce que je vous dis là est sensé et ne repose ni sur du vent, ni sur quelque dogmatisme que ce soit.
Que nous enseigne cette étude très concrètement ?
Elle porte sur près de 5000 personnes. Point commun de toutes ces personnes, elles sont migraineuses. On en a tiré 2 sous-groupes. Le sous-groupe des sédentaires, autrement dit ceux qui sont fâchés avec le sport, et le sous-groupe des sportifs considérés comme tels dès lors qu'ils font au moins 2h30 d'activité par semaine. À l'arrivée, on constate que chez les sédentaires, près de la moitié, 48% précisément, ont des crises quasi quotidiennes, en tout cas plus de 25 crises par mois. Alors que chez ceux qui bougent, le pourcentage chute à 28%. Sans compter que la migraine est une chose, mais qu'il y a tout le reste.
Que voulez-vous dire ?
Les chercheurs ont aussi étudié le niveau de stress, d'anxiété, de dépression des cobayes. Et là, sans surprise, plus on fait d'activité physique, moins on est concerné par ce genre de soucis. La diminution de ces indicateurs va en général de pair avec un meilleur sommeil et comme vous le savez, faire du sport améliore la qualité de vos nuits dès lors que vous le faites plus de 2 heures avant d'aller au lit.
Alors ces effets bénéfiques avérés ont-ils une explication scientifique ?
L'explication tient en un mot, les endorphines. Toute personne qui se bouge libère ce neurotransmetteur connu pour son pouvoir antidouleur, antistress et antifatigue. On est là dans la magie du cercle vertueux, mais attention.
Oui, soyez plus précis.
Attention à ne pas vous mettre ou vous remettre au sport n'importe comment, car comme rien n'est simple, le sédentaire en mauvaise condition physique qui se lance sans mesure dans l'aventure sportive s'expose à... Devinez quoi ?
Mais ne me dites pas qu'il s'expose à des migraines.
Eh bien oui, je vous le dis, rien n'est simple. En fait, les personnes migraineuses sont particulièrement sensibles au changement d'état. Donc, si vous voulez changer, bah faites-le en douceur. Vous commencez par la marche, vous enchaînez avec le vélo et puis vous passez à la course à pied. N'oubliez jamais que le corps réagit mal à la violence, même si elle lui est infligée avec les meilleures intentions du monde. Et puis, en y allant crescendo, bah vous éviterez aussi la blessure.
Merci beaucoup Michel.
À demain.
La France s'apprête à se déconfiner encore un peu davantage. Dès demain, les restaurateurs pourront rouvrir leurs salles et accueillir une partie des clients. Nous allons en discuter avec le chef triplement étoilé Yannick Aleno, qui par ailleurs vient de publier un livre qu'il a écrit pendant le premier confinement. Il nous explique que dans les grands restaurants, tout doit changer. Notre conversation avec un grand chef dans un instant sur RTL.
Yves Calvi, RTL Matin.
Il est 8h26, nous annonçons votre présence, cher Yannick Aleno, avec bonheur. Depuis ce matin, triplement étoilé, faut-il le rappeler, vous officiez au pavillon Le Doyen, dans les jardins des Champs-Élysées. Merci d'être avec nous. Pendant le premier confinement, vous avez posé par écrit vos pensées, notamment sur l'avenir de la restauration. À l'heure du confinement et des livraisons à domicile, tout cela donne « Tout doit changer, quel service pour le grand restaurant ?» Il est disponible sur Internet. Demain, la France s'apprête donc à alléger ses restrictions, notamment en matière de couvre-feu, Yannick Aleno, mais aussi des réouvertures et notamment des restaurants. Est-ce que vous avez hâte ?
J'ai hâte de recevoir. On a déjà commencé à recevoir. On a la chance d'avoir des grandes terrasses en extérieur, donc on a eu... déjà l'occasion de se remettre au travail, ce qui c'était assez compliqué parce que on a une équipe de grands sportifs en cuisine, donc il faut qui n'avait pas joué au ballon depuis longtemps, donc il fallait remettre au fourneau, donc on remonte la puissance gentiment et on revient à des bons réflexes de cuisine.
Mais justement, comment vont vos équipes ? Je veux dire, dans quel état d'esprit vous êtes retrouvés en dehors de l'excitation qu'on imagine bien entendu ?
Non, j'ai trouvé une équipe extrêmement motivée qui avait envie de retravailler quoi leur passion. C'est de servir, leur passion c'est de cuisiner, c'est de faire partager leur passion pour le vin. Et c'est formidable. Moi, je me suis j'ai entendu dire qu'on était des métiers non essentiels. Je peux vous dire, quand vous voyez les clients sur votre terrasse, le bonheur qu'on leur apporte, je pense qu'effectivement, la restauration est un métier extrêmement essentiel.
Alors, c'est intéressant parce que vous vous êtes posé des questions pendant cette première période de confinement. Et vous nous dites aujourd'hui, dans ce métier qui est le vôtre et pour lequel vous êtes célébré depuis des années, tout doit changer. Qu'est-ce qui doit changer, Yannick Aleno ?
Écoutez, moi j'ai passé ma vie à travailler beaucoup, très vite, et je ne m'étais pas posé finalement de questions sur le nouveau service. Et le fait du confinement m'a permis de réfléchir à ceci et de me dire, je ne vais pas réouvrir comme avant. On a une crise de vocation, on a du mal à faire rentrer les jeunes dans ce métier-là. Il faut se poser les bonnes questions et j'ai essayé de me les poser, en tout cas pour réouvrir le restaurant 3 étoiles qui lui ouvrira que le 6 septembre avec un nouveau service.
On parle aussi de pénurie de main-d'œuvre.
Ah oui, on recherche 300 000 emplois, je crois, en France, oui. Dans la restauration. C'est beaucoup, c'est beaucoup.
Ben alors, qu'est-ce qu'on fait ? Vous nous dites tout doit changer. Alors, j'ajoute, quel service pour le grand restaurant ? Ça veut dire que vous nous parlez des 3 étoiles, là ?
Oui, je parle essentiellement du 3 étoiles. On a écrit cette conversation avec Éric Perret. Et en fait, je crois qu'en anticipant comme ça la venue du client, j'ai créé la conciergerie de table. C'est-à-dire, quand vous... Dans le passé, vous réserviez une table au restaurant. Monsieur, vous êtes deux, ok, très bien. À quelle heure vous venez vendredi ? Très bien, merci, au revoir à vendredi. Mm-hmm. Ça s'arrêtait là. Le Michelin vous dit, ça vaut le voyage. Et c'est le seul endroit, finalement, où on ne préparait pas le voyage avec le client. Donc moi, je propose de préparer le voyage avec le client, c'est-à-dire de connaître ses habitudes, de connaître le goût de ses fleurs, et lui poser une fleur sur la table qui correspond à peut-être les fleurs qu'il avait le jour de son mariage. Vous voyez, plein de petits détails comme ça qui sont extrêmement importants dans ce niveau de luxe.
Vous nous dites, il faut que ça vaille vraiment le voyage, si je vous comprends bien.
Exactement.
Alors par exemple, vous nous expliquez que le vin, on devrait le choisir en fait à la réservation. Expliquez-nous ça, pourquoi ?
Ben, vous savez, une bouteille de vin, quand vous l'ouvrez, reçoit la même quantité qu'un à poids égal, hein,
ah oui,
qu'un bébé qui arrive au monde. Donc c'est extrêmement meurtrissant pour le vin. Vous partez d'une bouteille qui a allongé depuis 40 ans dans la cave, et oui, vous la montez au restaurant, donc vous passez de 12 ou 14 degrés à une salle de 21 degrés. Sans lumière, à la lumière, enfin, c'est très dur pour le vin. Donc il faut lui laisser le temps de sourire. Donc si la veille, vous me dites, voilà, trouvez-moi un petit Volnay du marquis, oui, d'Angerville de 25 ans.
Je suis tout à fait d'accord, oui.
Et de l'ouvrir à la minute et à l'instant, c'est une bêtise, parce que le vin n'est pas à son apogée. Donc si vous me dites ça, je vais vous l'ouvrir la veille, je vais commencer à le traiter la veille, et vous allez avoir un vin le jour de la dégustation, le moment de la dégustation exceptionnel.
Donc le dîner au grand restaurant doit se préparer, c'est bien ça ?
Évidemment. Évidemment. Et d'ailleurs, quand vous faites ça, ça change la main de cuisine. Quand vous êtes, vous me dites, je parle avec vous et on parle de votre plat principal. Et moi, je viens avec mon épouse qui adore les volailles, etc. Ben, la volaille, on va la faire mariner au cognac, au vin jaune pendant 3 jours. Donc, les intérieurs vont donner à la chair, vous avez cette petite amertume délicate et puis cette profondeur. Je vais la faire gonfler et je vais la rôtir à l'instant pour vous. Pendant 1h30, quelqu'un va arroser cette volaille pour vous. Et vous allez avoir un moment qui vous appartient particulier. C'est l'anti, je dirais, mono-menu. Déjà, on a une particularité, c'est qu'on est en France et que les, oui, Français aiment choisir.
Oui.
Et beaucoup de restaurants aujourd'hui imposent le mono-menu. Et moi, je trouve ça, en tant que client, assez insupportable. Alors, je ne critique pas les gens qui le font. Ça a des raisons de gestion énormes, de rentabilité aussi. Et donc, je pense qu'avec cette écriture, on peut retrouver ce sujet de rentabilité.
Ça veut dire aussi que tous les métiers de la restauration, du grand restaurant, hein, je rappelle qu'on parle en gros des 3 étoiles, va s'individualiser dans tous les sens du terme, à la fois pour le client et pour ceux qui seront pour les équipes de salle,
ouais,
et de restauration.
Je pense que c'est important. Et ça revalorise aussi le sommelier qui commence à travailler dans ce sens-là. Vous imaginez la revalorisation de son métier. Et je pense qu'en revalorisant les métiers de service, nous allons favoriser le retour de l'intérêt des gens dans ce métier. Porter un plat d'eau, ça n'a pas d'intérêt.
Est-ce qu'on ne va pas perdre un petit peu de fraîcheur ? Parce que moi, j'aime bien aussi être surpris au restaurant. Si je prépare tout avec vous, même si c'est dans un 3 étoiles et que ça va être exceptionnel, il y a une part de choses qui peut-être va m'échapper. Vous comprenez ma question ?
Mais moi, je ne veux pas que ma cuisine m'échappe. En fait, c'est-à-dire que c'est le retour de la cuisine du temps.
C'est-à-dire,
ben, c'est intéressant quand vous avez
la cuisine du temps.
Quand vous avez une carte au choix à la minute, la cuisine est instantanée. C'est-à-dire que vous commandez une langoustine, je vous cure une langoustine à la minute. Quand vous me demandez un cèpe, vous me demandez une poêlée de cèpe, donc je vais prendre la poêle et le premier réflexe, c'est de la faire poêler. Mais si on réfléchit en amont et que je glisse les cèpes au four 48 heures avant votre arrivée avec une cuisson très douce, des sucs qui se fait autour du champignon, etc., je vais vous amener un autre plaisir. Maintenant, si dans nos échanges, vous m'avez dit, moi, je rêve de manger des pibales, et je vais vous dire, Yves, vous savez, les pibales, on n'en a pas tous les jours, et
oui,
que par miracle, ce jour-là, les pibales sont là et je vais vous les servir, vous allez avoir des surprises que vous-même ne vous attendiez pas. Donc on va aller évidemment dans cette personnalisation, mais on va aussi aller dans le fond de la compréhension de qui on reçoit à la maison.
Je rappelle que vous avez 3 restaurants dans le pavillon Le Doyen, les réservations sont reparties.
Oui, ça va bien, le sushi bar est quasiment complet jusqu'à la fin du mois de juillet, le jour de la fermeture.
Jusqu'à la fin du mois de juillet ?
Ouais.
Bon.
Le pavillon, le comptoir gastronomique marche plutôt pas mal. Et là, on réouvre cette semaine la table de Pavie. Je m'occupe de la table de Pavie à Saint-Émilion. Et nous rouvrons la table qui a 2 étoiles au guide Michelin, oui, mercredi. Et les gens ont beaucoup d'intérêt. On a fait une cuisine, ce que j'ai appelé de la vigne à l'assiette. Je prône le retour de l'intérêt des grandes sauces et pour se marier avec les plus grands vins français.
Ah bah ça, il n'y a pas de doute que les grandes sauces et les grands vins français, on est tout à fait d'accord pour les redécouvrir avec vous. Vous consacrez un chapitre et quelques notions à l'intégration dans les cuisines. Ça veut dire quoi ? C'est l'air du temps ou vous pensez qu'aujourd'hui c'est fondamental aussi ?
Non, c'est de la conviction. C'est pas de l'air du temps, c'est de la conviction. Vous savez, je pense que moi j'ai fait beaucoup de travail pour recevoir des handicapés à la maison. J'ai appris que 60% des handicapés sont des handicapés de la vie, donc des gens qui ont eu des problèmes d'accident, peu importe, que 80% des handicaps ne se voient pas, et qu'il y a aussi des gens qui ont, à travers notre métier, que l'on peut aider à aller mieux. On a reçu 2 trisomiques formés, hein, qui ont une faculté de travailler, et ça donne de la, je veux dire, un rapport très intéressant à la vie, je trouve. Même pour les équipes, ils se sentent beaucoup plus responsables. Et ça nous a vraiment fait du bien. On a Mickaël qui a 3 heures ou 4 heures de concentration. Et donc, on lui dit, écoute, ton travail de service va être important. Donc, ces 4 heures-là, on va les mettre au bénéfice du service. Et ça se passe vraiment très bien. J'avais une appréhension, très honnêtement. Mais ça fonctionne. Donc, j'invite tout le monde à vraiment aller dans ce sens-là.
Vous avez réfléchi et vous nous ouvrez des perspectives. Tout doit changer. Quel service pour le grand restaurant ? Le livre est accessible sur Internet. Et puis, maintenant, on l'a compris. La table de pavillon au cœur des vignobles de Saint-Émilion et le pavillon Ledoyen, où vous recevez d'ores et déjà. Merci d'être venu nous ouvrir, nous faire respirer ce matin. Déjà, on a eu un professeur Delfrécy qui était plutôt optimiste, je vais vous dire. Cette journée est assez agréable. Et pour continuer, on va avoir une météo magnifique avec Plus Bonin dans un instant. Je vais vous dire, la vie est belle.
RTL Matin.
Bonjour, c'est Stéphane Boutsop.
Laissez-vous tenter.
Ce matin, nous recevons Benjamin Laverne de la Comédie Française avant la sortie demain du film Le Discours.
3 mois que je me prépare mentalement au cauchemar que tout ça implique pour moi.
Nous, on est ravis, en tout cas, de vous accueillir, Benjamin. C'est à 9h sur RTL.
Oh putain, je l'avais pas vu venir, celle-là.
On sera là avec Yves Calvi, il y aura du café, des croissants et même du jus d'orange. Vous en dites quoi ?
Ce que j'en pense ? Sérieux ?
Bah ouais, on aime beaucoup cette comédie sur la famille, la timidité, l'amour. Ça doit être bien de jouer dans ce genre d'histoire.
Foutez-moi la paix, merde.
Eh ben ça promet cette émission.
Oh, j'adorerais pouvoir répondre à un truc comme ça.
Ah ok, c'était pour rire. Donc, Benjamin Laverne, invité spécial de Laissez-vous tenter, c'est ce matin sur RTL.
Ça serait peut-être mieux de laisser ça à quelqu'un d'autre.
RTL Matin. Cher Louis Bodin, parlez-nous de notre météo à 7 jours.
Eh bien, ça se confirme, hein. Je vous ai dit, l'anticyclone s'installe durablement, et là, de jour en jour, les modèles qui savent faire les prévisions le confirment. Cet anticyclone est là, il va s'installer. Alors, il a toujours un peu de travail dans l'Est, où on a encore un peu d'instabilité. Ça sera le cas aujourd'hui, avec quelques orages du Nord-Est jusqu'à la Méditerranée, Côte d'Azur et Corse, intégrés avec, surtout sur les reliefs, donc, ces averses orageuses. Demain, ça sera à peu près la même chose. Encore quelques averses orageuses près des frontières de l'Est, surtout en cours d'après-midi, mais ailleurs, du grand soleil, du matin au soir. Du coup, les températures toujours estivales. Au moins 25 degrés dans la moitié nord, pas loin de 30 dans le sud. Puis je peux continuer comme ça jusqu'en fin de semaine, avec des orages qui vont régresser en montagne. Il en restera un peu entre la Côte d'Azur et la Corse, surtout près des reliefs, mais ailleurs, c'est le soleil qui va s'imposer de plus en plus facilement. Et ça, au moins jusqu'à lundi, mardi, mercredi prochain, peut-être. Tout ça, donc, devrait enfin durer un peu.
La vie est belle, je le redis une nouvelle fois.
Oui. Hein. Merci. Yannick Aleno,
ça c'est sûr qu'on est bien. Puis vous savez quoi ? Là, on va aller faire un petit tour dans quelques instants au potager. Et en plus, on va retrouver Laurent Gérard un peu plus tard. Allez.
RTL, vous êtes comme ça.
Et prenons ce matin la direction de Saint-Pierre-les-Nemours, près de Fontainebleau, pour une rencontre avec Hélène et Étienne. Ils sont en couple et ils ont décidé il y a 3 ans de tout plaquer. Bonjour Mourad Djabari.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous avez été à la rencontre de ce couple qui s'est créé son petit paradis dans le sud de l'Île-de-France, à savoir un village potager.
Oui, 10 hectares de sillons creusés dans la terre, de feuilles, de tiges, de fleurs de toutes les couleurs. Les carottes n'ont pas encore dévoilé leur corps orangé et les courgettes sous la serre attendent qu'Hélène et Étienne viennent les ramasser.
Et puis on a un certain nombre d'autres cultures qui commencent à arriver, qui sont les précurseurs des légumes d'été. On a des aubergines qui sont là et les courgettes qu'on distribue depuis 3 semaines.
Et donc là, on est sur votre domaine, on peut appeler ça comme ça ?
Oui, c'est ça. C'est une grande exploitation agricole, maraîchère, en maraîchage diversifié. Diversifié, ça veut dire qu'on produit 160 variétés de légumes à l'année.
Tout cela est bio et évidemment, à les entendre, Hélène et Étienne sont des experts des fruits et légumes. Et pourtant, il y a encore 3 ans, Étienne était plus à l'aise pour faire son nœud de cravate que pour planter un radis.
On a eu une vie antérieure qui n'était pas du tout dans l'agriculture. Nous.
On a une première vie très urbaine. Hein. On était tous les deux entrepreneurs. On avait créé ensemble une entreprise de conseil qu'on a vendue ensuite. Après, Étienne a pris la direction générale d'une verrerie, donc dans l'industrie. Et moi, j'ai pris la direction marketing d'une filiale de la SNCF.
Le village potager, c'est un projet écologique et social, un cercle vertueux. Et le déclic est arrivé loin de l'Île-de-France après un voyage en sac à dos à l'autre bout du monde.
C'est au cours de ce voyage en fait qu'on s'est arrêté dans une ONG aux Philippines et cette ONG faisait plein de trucs autour de l'agriculture.
Cette culture de proximité du circuit court, on l'a découvert aux Philippines, mais en fait on s'est dit à ce moment-là c'est sans doute transposable chez nous avec des enjeux évidemment différents.
Et que du coup ça pouvait donner beaucoup de sens pour nous. Ouais. Et c'est là qu'est née un peu l'idée du village potager. Et ce qu'on n'avait pas du tout anticipé, c'est à quel point cultiver la terre, c'était incroyable.
Non, c'est vrai, quand on voit, quand on voit ce que la terre donne, c'est assez incroyable.
Et je vous assure, la première fois qu'on a planté, c'était en mars 2018, on a planté 10 000 oignons, mais on allait les voir tous les jours et on les voyait pousser et c'était Noël tous les jours.
Mais sous leur salopette mouchetée de terre, la cadre et le dirigeant d'entreprise sont encore là. Ils ont créé une vingtaine d'emplois, la plupart en insertion.
Qu'est-ce qu'on est en train de planter là-bas ? On va aller les voir. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander un prénom ?
Cyril.
Je vous offre une pause.
Merci, Jean-Vie.
Dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ?
Là, on est en train de faire des trous pour planter les poivrons.
Donc là, aubergine, ici, poivron.
Poivron, tomate, après.
Comment vous êtes arrivé ici ?
Après une reconversion, en étant 20 ans professeur des écoles.
Et maintenant, vous jouez de la binette.
Voilà. On discute avec les légumes. Ça fait moins de bruit que les enfants. La fatigue de l'éducation nationale, notamment. La fatigue des enfants aussi. Et après, c'est une envie d'aller à la campagne, de travailler en plein air.
Je vous laisse continuer. Il y a le patron qui nous regarde. La pause a été trop longue.
Ces légumes qu'ils regardent pousser avec amour, Hélène et Étienne les vendent dans leur épicerie solidaire à l'entrée du domaine et fournissent aussi en bio les écoles du coin et des restaurants parisiens.
Merci beaucoup Mourad Djabari pour cette découverte. Ce bel exemple de reconversion est à retrouver sur le site rtl.fr.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Il est 8h42 et ce matin, Isabelle Choquet, vous menez l'enquête, enquête de moralité.
Oui, vous vous souvenez de cette interview ?
Ce qui s'est passé, c'est une relation non seulement inappropriée, mais plus que ça, une faute. Une faute vis-à-vis...
DSK, venu battre sa coulpe aux 20h après l'affaire du Sofitel. Depuis, MeToo est passé par là. Et aujourd'hui, les comportements inappropriés, c'est la hantise des recruteurs qui tentent de se rencarder avant l'embauche, quitte à flirter avec la légalité. On peut lire ça cette semaine dans l'Express. L'enquête de moralité, on l'a envisagée à Sciences Po au moment de remplacer Olivier Duhamel. Bon, finalement, on a pris une femme, Laurence Bertrand d'Orléac. Mais bon, le principe est posé, il faut de l'exigence déontologique. C'est comme ça qu'on dit à Sciences Po. Reste à savoir comment y parvenir. Et ce n'est pas si simple. On peut difficilement poser des questions intimes à un candidat, encore moins interroger son entourage. Alors, oui, les entreprises rusent avec des questions détournées. Par exemple, sur quels critères faites-vous évoluer un homme ou une femme dans votre équipe ? Et les réponses ne sont pas toujours politiquement correctes. Il y a aussi les réseaux sociaux. Les postulants ont beau prendre des précautions, on y trouve toujours quelque chose et le moindre soupçon est éliminatoire. Et puis, bien sûr, on peut se renseigner auprès d'anciens employeurs. Si je m'y prends bien, dit un recruteur, je peux leur faire avouer que le postulant est galant et donc possiblement insistant. Tout devient suspect. Récemment, un recruteur a appris qu'un candidat avait eu deux aventures au boulot. Aucune plainte, pas de harcèlement, mais il a préféré laisser tomber. Officiellement, le candidat n'était pas apte au poste. Pas beaucoup, dites-vous. Pourtant, parfois, on se heurte à une forme d'omerta. Et dans ce cas, il y a la méthode informelle. Lors d'un dîner chez des amis, un chasseur de tête croise un chef d'entreprise. Il l'interroge sur le départ d'un de ses cadres. Tiens, pourquoi ? En apparence, c'est juste une conversation entre gens de bonne compagnie. En fait, c'est illégal. Normalement, il y a une obligation de confidentialité. Dans certains secteurs, comme l'hôtellerie ou la grande distribution, on fait carrément appel à des détectives privés. Avant, on était la brigade des cocus, dit un pro. Aujourd'hui, on est sur des affaires civiles et commerciales, surtout de la vérification de CV. Pour 40 euros de l'heure, ces fins limiers vérifient que tel candidat a bien travaillé au bout du monde ou, plus délicat, ils enquêtent sur les antécédents d'un futur dirigeant de club de vacances qui sera en contact avec des enfants. Là, on est en terrain glissant. Pour avoir accès à un casier judiciaire, il faut faire appel à des officines proches de la police. On appelle ça la tricoche et c'est absolument illégal. On l'a vu récemment dans l'affaire Ikea. L'enquête devient obligatoire quand un salarié est accusé de harcèlement. C'est la loi depuis 2 ans. C'est cher, entre 300 et 500 euros la journée pendant 2 mois au moins. Alors les grands groupes préfèrent mettre en place des cellules d'enquête interne. Sauf que personne n'est vraiment formé pour ce genre de mission. Comment enquêter sur un collègue ? Sur quels critères ? C'est encore plus compliqué dans les entreprises internationales parce que l'acceptable, ça varie d'un pays à l'autre. Un DRH se souvient par exemple d'une plainte contre un salarié français. Pendant un séminaire dans une filiale dirigée par un Américain, il avait proposé à une femme de boire un verre avec lui. Il avait même insisté. L'Américain nous a dit qu'il ne voulait plus jamais le voir. Mais en France, nos juristes disaient que si on le licenciait, il gagnerait au prud'homme. Alors je vais juste passer un savon. Les DRH ne veulent pas tomber dans les excès à l'américaine. Ils savent aussi que certains de leurs confrères utilisent ces dossiers délicats pour se débarrasser, l'air de rien, de certains cadres trop chers ou trop vieux.
Ah oui.
Bref, les enquêtes de moralité ne sont pas forcément très morales. Bonnes mœurs exigées, c'est un article à lire dans l'Express.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Isabelle Choquet. On se retrouve demain matin.
Avec plaisir,
avec
à demain.
Avec plaisir. Jérôme de Verdière, clairon d'attaque. Clairon d'attaque de Laurent Gérard est déjà avec nous. Mademoiselle Jade va nous rejoindre. On va retrouver toute l'équipe au Grand Complet dans un instant.
RTL Matin.
Calvi jusqu'à 9h30.
8h48, bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi.
Un peu mal.
Oui, oui, dis donc, c'est gros. Oh là. Ouais. Et bonjour tout le monde. Et je dis aussi bonjour à Jean-Luc Mélenchon matin.
Ah oui, j'ai dit aussi bonjour à Jean-Luc Mélenchon ce matin.
Arrêtez, enfin, ne soyez pas agressif.
Mais j'ai des raisons d'être agressif. Depuis hier, tout le monde me tombe dessus. Tout ça parce que j'ai dit que les attentats de 2012 et 2017 avaient été récupérés à des fins électorales.
C'est un peu complotiste quand même, non ?
Et voilà, complotiste. Ah oui. Hein ? Le mot est lâché. Mais ça m'étonne pas, t'es comme les autres, tu récites docilement la propagande d'État. Bé, 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 hein ?
Oui, bé, oui.
Au royaume des moutons, les journalistes sont rois.
Bé, oui, bah, si vous le dites.
Hein, c'est qui te parle dans l'oreillette, là ? C'est le tsar Nicolas de Taverneau ? Hein, c'est ça ? Oui. Il te dit ce que tu dois dire ?
Voilà, en permanence. Mais enfin, monsieur Mélenchon.
Bonjour, madame.
Ah bah tiens, bonjour François Ruffin.
Vous saviez, madame, que la Terre est plate ? Que si on marche jusqu'au bout du planisphère, on tombe dans un trou. C'est le patron qui me l'a dit.
Mais tais-toi, Saturnin. On est en pleine polémique. N'en rajoute pas une couche. Ils attendent que ça.
Ah bon ? Et le fait qu'Elvis Presley, en fait, il n'est pas mort.
Oh là là.
J'ai le droit d'en parler ou pas ?
Mais tais-toi, je te dis. Ils vont encore me traiter de complotiste.
Ok, patron, je me tais. Moi, tu sais, bouche cousue. Et puis, comme vous dites toujours, hein, avec la 5G des vaccins, les Illuminati, ils entendent tout ce qu'on dit et ils répètent tout à Macron.
Mais qu'il est con !
Le nouveau titre d'Aya Nakamura est bien parti pour être le tube de l'été. En quelques jours, le clip Bobo a accumulé des millions de vues sur YouTube.
Aya Nakamura, c'est énorme.
Ah, bonjour Fabrice Lucchini. Oui,
bonjour, tu vois la Jade ? Oui. Avant on avait la môme Piaf, 1m40, une très grande voix dans un tout petit corps. Maintenant on a la Jadja Aya, 1m80, une toute petite voix dans un corps immense.
Ouais.
La Nakamura, elle chante pas, hein. Elle baragouine dans des tubes en fer et ça fait des millions de vues sur Internet, c'est énorme.
Alors non Fabrice, elle ne baragouine pas dans des tubes en fer, on appelle ça de l'autotune.
Énorme.
Énorme, oui.
C'est vrai qu'Aya, hein, t'es plus au salon du tuning qu'à l'Opéra de Paris. Ça me fait penser à cette phrase admirable de Marcel Proust. Nous pouvons causer pendant toute une vie sans rien dire que répéter indéfiniment le vide d'une minute. Je te laisse 2 secondes.
Merci.
Faut qu'on assimile.
Alors,
je sais ce que tu dis, la Jade. Tu dis Aya Nakamura. C'est pas très proustien. Hein, c'est pas ambiance tasse de thé et madeleine. On est plus dans un mood KFC Coca-Cola.
C'est pas faux.
Hein, mais il faut être moderne, la Jade. Alors, lâche tes mots croisés de femme actuelle.
Ah non.
Moi, je vais abandonner mes pléiades de Proust, La Fontaine et Peggy, pas Peggy la cochonne, hein, Charles Peggy, l'écrivain. Et je vais te dire et te lire cette grande poétesse de notre siècle, du Aya Nakamura.
Bien, on vous écoute, allez. Fabrice.
Ça s'appelle donc, on le sait, Bobo.
Oui, je l'ai dit, oui.
Ça parle pas du barbu vivant dans son bar à jus du 11e arrondissement de Paris en trottinette, hein. D'ailleurs, je pourrais pas te dire de quoi ça parle exactement, mais ça s'appelle Bobo. T'es prête ?
Oui, oui.
Accroche-toi à la chemise du Calvi, ça décoiffe.
Je le fais tout de suite. C'est parti.
Je me réjouis.
Alors. Et, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Chéri Coco, fais-moi Bon, là, tu te dis, on n'est pas exactement dans du Baudelaire, mais attends, la suite, je poursuis.
Pas exactement.
Je veux le bifton, pas de bobo. Je veux le bifton, oh yeah. Hein, là, je vois le Calvi, il est complètement paumé. Je reprends.
Elle monétise ou quoi ? Je comprends pas.
Oui, oui. Non, mais il y a du très lourd, Calvi. Ah bon. Moi, 3 fois canon, 4-4. Fais-moi de la place, place. La Nakamura, je sais pas pourquoi, elle répète deux fois. Hein, elle bégaye, c'est un peu la François Bayrou du R&B. Je continue. Soit tu me comprends, sinon tu tailles. Soit je me taille ou tu captes. Au-dessus de la mêlée, bad bad.
Bon ben moi j'ai rien compris.
Ah ben,
bad bad.
Pourtant bad bad au-dessus de la mêlée. Oui. Hein, donc tu captes pas non plus.
Hein. Non.
Non mais on s'en fout. On te demande pas de capter, de comprendre la Jade.
Oui.
Ce qu'on te demande, c'est de te mettre des claquettes fourrure et un pareo et d'agiter ton boule comme une guedin.
Non mais d'accord, mais je comprends mieux alors. Oui.
Tu vois la Jade, le phénomène Aya Nakamura me fait penser à cette phrase de Guitry. Énorme Guitry. Quand une œuvre d'art vous donne le vertige, Souvenez-vous que ce qui donne le mieux le vertige, c'est le vide. Alors on peut le dire, Aya Nakamura est une grande artiste.
Laetitia Hallyday a annoncé qu'un concert hommage à Johnny, intitulé « Que je t'aime », aura lieu le 14 septembre à Bercy, avec sur scène de nombreux artistes, dont Patrick Bruel, Calogero, Julien Doré et même Gad Elmaleh. Mm-hmm. Voyons comment la nouvelle a été reçue au paradis.
La tia tia. La tia tia. Un, deux. Un, deux. Oh ! Est-ce que quelqu'un m'entend ici-bas ?
C'est toi, Mamour ?
Oui, Mamour. C'est moi, Mamour. Dis-moi, Laetitia, on me dit que tu veux organiser un concert de moi à Bercy le 14 septembre. Sauf que le 14 septembre, je ne pourrais pas être là. Et même le 15, et même le 16, vu que... Je suis mort.
Mais Mamour, ce sont des chanteurs vivants qui vont reprendre tes chansons. Il y aura Patrick Bruel, Christophe Maé, Calogero.
C'est une bonne idée d'avoir demandé à Calimero de chanter des chansons de moi. Oui. Mais je ne comprends pas pourquoi tu as aussi demandé à Gad Elmaleh.
Non, oui, c'est vrai.
Parce que moi, je n'ai pas fait des sketchs rigolos qui font rire avec de l'humour. Quitte à inviter des comiques, tu aurais dû demander à Maurice Chevalier et Elvis Las Palès. Ah, c'était bien ça. Et puis, il y a une chose qui me turlupine, c'est pourquoi tu as appelé le spectacle Comme j'aime. T'es en partenariat avec un régime, ma sœur ?
Ah, mais non, Mamour. Le titre, c'est « Que je t'aime ». C'est Mamie Rock qui m'a donné l'idée. Parce que Mamie Rock, elle dit tout le temps « Que je t'aime ma banque, que je t'aime mon plan épargne, que je t'aime ma cicave ».
Ah, oui.
À propos de ça, dans la salle d'attente de Saint-Pierre, j'ai vu dans... je t'ai vu dans Voici avec... L'agile m'exaspère.
Non, c'est Jalil l'espère.
Oui, c'est pareil. J'ai vu qu'il avait sur lui tous les vêtements de moi. Mon t-shirt à tête de lu, mes Santiago en croco, mon blouson à franges. Il a même ma bague de chef indien et ma croix de Jésus et Tahiti. Et je prendrais pas un peu pour moi ton l'agile m'exaspère.
Mais non, Mamour. Il veut juste tourner un biopic. Sur toi.
Mais justement, j'en ai un peu marre qu'on me biopique tout.
Et puis tu sais, le 14 septembre, Anne Hidalgo inaugurera à Bercy une esplanade à ton nom.
Oh, mais c'est le buquet. Alors, tu diras à ta dingo des bobos que sur l'esplanade de Johnny Hallyday, je veux pas voir des trottinettes électriques qui font pas de bruit et sur lesquelles on a l'air d'un con. Oui. Et des fois deux, ça fait deux cons sur une trottinette.
Oui, c'est pas faux.
Je veux, c'est mes exigences, je veux des Harley Davidson à essence avec un vrai bruit de moteur et sur lesquels on a l'air rock'n'roll.
Merci pour cet excellent moment.
Vous merci, à vous aussi.
Merci à vous.
Merci. Laetitia. Rendez-vous demain matin, je crois que c'est aussi simple que ça.
Oui.
On va retrouver une recette de flan au caramel avec Cyril Lignac dans un instant.
Ah, c'est bien ça.
Je savais que j'allais lui plaire.
Flan au caramel.
Oui. À tout de suite.
RTL Matin. Yves Calvi.
C'est Bernard qui vit à Nîmes et qui vous a demandé, cher Cyril Lignac, une recette de flan au caramel. Nous vous écoutons, nous devons être concis.
Alors, pour faire une bonne crème caramel, on démarre d'abord par le caramel. Alors, il nous posait la question si on mettait du glucose ou de l'eau. Le mieux, c'est toujours un départ à sec, c'est-à-dire une casserole qu'on fait chauffer, on met 125 g de sucre,
paf.
Tout doucement le sucre fond et on a un joli caramel. On le verse dans les moules. Et on les laisse refroidir. C'est comme ça qu'ensuite, il va napper la crème. À côté, je fouette 3 œufs et 2 jaunes. J'ajoute 100 g de sucre. Je mets 2 gousses de vanille pour lui donner ce bon goût de vanille.
Bien sûr.
On peut aussi faire la fleur d'oranger.
Oui.
Et on verse 50 centilitres de lait chaud. On mélange délicatement pour ne pas faire trop de mousse. On verse dans les ramequins un bain-marie, une heure à 160 degrés, mon Yves, et le tour est joué.
Eh ben, je suis très heureux et je vous remercie. On se dit à demain. D'ici là, on vous retrouve sur le site rtl.fr. Tout de suite, les titres de l'actualité avec Jérôme Flore.
Quelques jours après le couac orange, une nouvelle panne affecte en ce moment le numéro du SAMU, le 15 à Saint-Étienne. C'est ce qu'annonce le CHU sur son compte Twitter ce matin. Des numéros de substitution ont été mis en place. Il faudra garder le masque au moins jusqu'au 30 juin, prévient sur RTL le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy à la veille de la nouvelle phase de déconfinement. Il reconnaît que l'épidémie est contenue désormais, mais évoque le risque d'une quatrième vague à la rentrée qui sera néanmoins très différente grâce au vaccin. Et puis cet ultime match de préparation pour les Bleus, ce soir, ce sera contre la Bulgarie à une semaine tout juste de leur entrée dans l'Euro. Coup d'envoi 21h10, match à vivre sur RTL et M6.
Merci mille fois.